Pascal CV. Le midi, on en jase.
Le midi, Gilto.
À Boulevard 102.1.
Bon midi à tous les Gilto de la planète et aux autres. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1, l'émission
en c'est j'ai le temps.
Ah, je pensais que c'était Gilto.
Le midi, Gilto. C'est ça qu'Antonine Yacarini a dit. Parce qu'elle est avec nous en studio.
Ben oui, salut Anto!
Salut, mon micro n'était pas allumé?
Ben non, mais là, écoute...
Vous êtes plus habitué que je sois là.
Ben là, c'est ça.
Je suis revenu.
Mais il attendait de l'ouvrir juste au moment où on disait, là, ton retour est sérieux et sincère et en personne.
OK.
Moi, j'entends Gilto, j'aime ça.
Le midi Gilto.
D'ailleurs, j'avais déjà fait un sondage à savoir si un Gilto nous écoutait, puis il n'y en avait pas. Donc, chemin, il y en a un, 418-971-102.
Tôt, c'est quand même pas un nom de famille courant.
Ah non, moi, je pensais que c'était même le prénom rendu là, Gilto.
Ah, Gilto. Gilto.
Je sais pas c'est quoi le prénom le plus bizarre qui nous écoute.
En tout cas.
Ah, manifestez-vous. Ben,
allez-y.
Moi, je suis quand même bien classée.
Antonine.
Mais si il y a des gens qui ont des noms très originaux,
on en prend, on en veut.
Ah oui. Allez-y, envoyez-nous ça. 418-971-1021. Ah, on va commencer cette émission-là dans quelques instants avec des manchettes. Mais après ça, on va juste faire une petite parenthèse avant le caucus parce que... Antonine Yacarini est rendue une fan de hockey.
Je dirais pas ça.
Je suis comme...
Mais, tu sais, d'habitude, je suis tellement ignorante, ça n'a pas de bon sens. Puis quand Jeff se retourne vers moi puis qu'il me pose une question de hockey, avec son grand sourire, voulant dire « Vas-y, elle a l'air d'une folle », là, ces temps-ci, je suis moins à risque parce que j'écoute du coin de l'œil.
Donc, ce qu'on va faire... C'est qu'on va tout simplement commencer l'émission après les manchettes avec Alex Laramin. On va parler des Sabres de Buffalo.
Ben oui, les deux traîtres que vous êtes, pourquoi pas commencer l'émission avec ça. Hier, à grand pelleté de Le Canadien va perdre. Vous avez pas nu partout à l'équipe. Je m'en pose ça.
Les Sabres sont grands. Sont gros.
Sont tellement grands.
Sont rapides.
Ben, les deux petits pieds quecs, là, que c'est
dans l'eau. Gilet bleu, hein?
21, numéro 21. Là, je sais pas c'est quoi le nom du joueur, là. Mais je regardais ça avec mon fils hier, parce que mon chum m'a flushé pour aller chez un ami. Et j'étais impressionnée par les grands défenseurs.
Mais t'en as un de 6 et 6, puis un de 6 et 7 que Jeff me disait hier. Excuse-moi, c'est.
Tu sais, notre petit call, là, quand il passe à côté. Là, je suis là, non, fais-y pas mal. Non!
Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, le petit Cole, honnêtement, malheureusement pour lui. Mais bref, on va parler de ça avec Alex Laramé. On va se faire une première heure aussi vraiment axée sur le dossier santé numérique. On va avoir Yann Langlais-Plante, qui est le directeur des communications pour Santé Québec, qui va être avec nous aux alentours de 12h30. On veut parler avec lui parce qu'aujourd'hui, dans les médias, on dit « Hey! » Il va avoir du retard pour les cancers, le traitement. Et là, Christine Fréchette, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, a dit non, tous les cas urgents vont être traités. Donc, on veut parler avec Yann Langlais-Plante de ceci. Et on va terminer l'heure, justement, avec Moncef Déragie, porte-parole de l'opposition en santé, qui veut nous en parler aussi. Fait que vous allez avoir le tour complet du dossier santé numérique. Pourquoi? Parce qu'il reste deux dodos avant son déploiement samedi.
Deux dodos!
Deux petits dodos.
Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne saisis pas puis j'ai hâte qu'on en parle parce que je me dis, bon, ceux qui y travaillent disent ça va aller, c'est normal que l'implantation, ben on est dans un projet pilote au départ, donc il va y avoir des bonnes choses puis des moins bonnes puis on va s'ajuster. Mais quand t'entends le terrain qui est un peu plus affolé, c'est pas tout le monde, mais certains qui je suis comme perdu. Moi, je suis pas capable de me positionner.
C'est une gestion du changement.
Oui, exactement. C'est en plein
quand ça te touche, là, puis que toi, t'es déjà dans le jus, il faut que tu changes de système, là.
T'es
on n'a pas toujours une bonne attitude par rapport à ça. Je suis la première. Écoute, il y a une mise à jour sur mon téléphone, puis chiant. Je comprends.
Quel est le prénom le plus chialeux? Non, c'est pas vrai.
Le prénom le plus chialeux? Le signe astrologique le plus chialeux.
Oh, on a des noms de prénoms qui rentrent, là, par exemple. Isatis.
Ah oui, ouais. OK.
OK. Guido.
Guido?
Guido.
Guildo, ben oui.
Guildo, j'en connais un. Ça. Ça, c'est un texto qui disait ravi de revoir Antonine en studio.
Oui, ça, c'est très pertinent, merci.
Ah, j'ai pas un nom bizarre, mais je m'appelle Kim et je suis un gars. Puis ça, c'est vrai que Kim,
c'est la première fois que je catch que c'est un gars, celui qui nous écrit depuis des années à qui je parle. J'ai toujours cru que c'était une femme. Je suis désolé.
Moi, je l'ai su parce qu'au gala de lutte, il me dit hey, c'est moi, Kim, en passant, je suis un gars parce que j'ai toujours une auditrice.
J'en ai déjà connu un, Kim, gars.
C'est très beau. Moi,
oui.
C'est sûr que je plaide ma cause, mais moi, des noms que c'est gars.
Qui marche autant, gars.
Ouais. Marie-Ève, qui travaille en pharmacie, elle a un Robert.
Oh, ça, c'est drôle. Les gens qui ont le même prénom et nom de famille.
Mais je J'aimerais parler aux parents.
Oui, après, moi aussi.
C'est
des questions.
C'est le seul commentaire.
Oui.
France-Paris, tu sais, c'est drôle à cause de France.
Ah. J'aimerais parler aux parents.
Fleurette Boisvert.
C'est cute.
Cute.
Yvan Dubien.
Non, mais là, je pense que c'est quelqu'un qui nous écrit
Marc
des jokes.
Desbiens.
Ça. C'est la même personne qui nous envoie ça.
Ben, oui, c'est Marie-Ève, elle dit, elle travaille en pharmacie, fait que c'est des clients de la pharmacie.
OK, OK, c'est des vrais, bon.
Oui, c'est des vrais noms.
Ça aurait pu être écrit dans un livre de jokes, ça.
Oui, exactement. Hey, ça rentre à appel. Ziena.
Ziena.
Wow.
Bon, il y en a qui dit Serge.
J'ai connu
Serge
un Noël, bon Noël et un Denis. Ça, c'est deux textos différents, mais...
ouais. Annick Porum. En effet, on a un Laurence, qui est un gars ici. J'adore. À la station. Il pourrait gagner une bonne palme. Et puis là, on est ici. Ouais, c'est ça, des Noël, des Denis. Continuez. 418-971-101, c'est toujours très, très, très drôle.
Mais le maire de Donnacona, c'était Denis.
Ah oui?
Oui, il me semble. Oui, c'est vrai. En manchette, avant de passer au Canadien de Montréal.
Oui, on est un peu plus sérieux parce que nul ne peut ignorer les lois et surtout les lois en politique. Et la députée Sona Lakoyan-Olivier aurait enfreint le code d'éthique de l'Assemblée nationale. En fait, elle a utilisé son bureau de chemédé pour des fins partisanes et c'était en faveur de Pablo Rodriguez. Alors, elle est dans l'actualité aujourd'hui parce qu'on la condamne avec une pénalité de 8 000 $. Et ça a été choisi parce que dans la course à la direction libérale, c'est la commissaire à l'éthique qui a analysé tout ça, et elle a conclu qu'on a entravé le travail d'enquête de maître Ariane Mignolet. Donc, on veut imposer une pénalité de 8 000 $ à Sona Lakoyan-Olivier. Donc, dans la politique, ça fait beaucoup de bruit aujourd'hui. C'est la première fois depuis l'adoption du code d'éthique en 2010 que vraiment un député se fait imposer une pénalité financière. Donc, c'est une sanction possible. Dans le coffre à outils de la commissaire, cette fois-ci, on l'applique parce qu'on a jugé que la députée a commis un manquement à l'article 36 du code en permettant que les ressources mises à la disposition du bureau de circonscription soit utilisée pour la campagne d'un candidat d'une course à la chefferie du parti. Et Antonine, dans un caucus, nous avait très bien expliqué à un moment la différence dans une course, mettons, une élection et une course à la chefferie. Mm-hmm. On en reparle dans quelques instants. Redécoupage, il y a un accord conclu à Québec. On fait passer de 125 à 127 le nombre de comtés. C'est un accord conclu entre la CAQ, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, puis le Parti québécois. On passe, comme je vous disais, de 125 à 127 le nombre de circonscriptions sur la carte électorale. C'est quelque chose qui était discuté depuis fort longtemps. Le gouvernement et l'opposition se sont entendus. On ajoute 2 sièges. Donc, le contenu de cette entente-là, c'est dans un projet de loi et ça a été déposé ce matin par le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge. Fonds d'investissement en santé mentale, il y a un point de presse ce matin. On a de l'aide pour plus de 2 300 jeunes de Québec. C'est ici, dans notre ville. On s'est doté de 100 000 $, donc dans ce nouveau fonds d'investissement. Puis on veut aller aider ces jeunes-là. Le maire de Québec était là, Bruno Marchand. C'est une conférence de presse en pleine 75e semaine de la santé mentale. Alors, le 100 000 $, c'est sur 3 ans et ça provient de la Sun Life et de la Ville de Québec. La Sun Life contribue plus, là, met 75 000 $ là-dedans, mais c'est pour gérer la fondation Jeunes en tête. Et une des missions, bien, c'est d'accroître l'accessibilité aux soins de santé. Là, on le sait, pour les adolescentes en difficulté ici, c'est un devoir qu'on dit collectif. Ce sont de grosses nouvelles, mais il y a aussi le Gaulois de Victoriaville qui va devoir payer une sanction de 2 000 $. Puis ça fait bien jaser parce que ça nous amène à cette personnalité rendue publique, Jean-Noël Sarteau-Lacroix. On a diffusé sur Facebook des publications qui étaient jugées contraires aux règles qui encadrent la promotion d'alcool. Donc, la Régie des alcools, des courses, des jeux reproche à l'établissement d'avoir encouragé une consommation non responsable quand Jean-Noël Sarteau-Lacroix est allé en juillet 2025. Publication qui invitait notamment la clientèle à participer à un défi. Lui, il promettait de dépenser près de 10 000 $ en alcool en 21 minutes. C'est une vidéo qui montrait aussi une serveuse qui versait directement de l'alcool dans la bouche d'un client. Ça n'a pas passé selon la régie. L'affaire, c'est que c'est pas le seul bar où on a fait ce genre de choses-là. Il en a fait des tournées. Alors, je crois que c'est une porte qui s'est ouverte vers plus, probablement.
Blaine Hudson, et il a été clair.
On va rejoindre directement Alex Laramé pour parler de ce premier match de la série Canadien-Buffalo. Alex, si Lane Hudson n'était pas content, c'était juste le premier épisode d'un match où on a vu des sabres de Buffalo totalement dominants.
Ben, c'est sûr qu'on a vu que ça va plus vite que le Lightning de Tampa Bay là, du côté des sabres. Là, on est beaucoup plus rapide. La grosseur aussi, tu l'as mentionné. Là, on a beaucoup de joueurs en haut de 6 pieds. Et ça a paru dans ce match-là. Mais de là à capoter, là, puis à en remettre en question, puis là, je vois des gens changer leurs prédictions. Canadien va perdre, sabre en 4, sabre en 5, on va se calmer. Moi, j'ai dit Canadiens en 6. Ça veut toujours bien dire qu'ils vont perdre deux matchs. Ils ont perdu le premier. On a encore du temps pour se rattraper dans la série. Puis je m'en reviens un peu à l'analyse de Martin Saint-Louis qui a fait de ce match-là après la rencontre. Il a mentionné que on a tiré de l'arrière dès le début sur Lane Hutson qui tombe. Mm-hmm. Ça a donné vraiment du momentum au Sabres. Puis ensuite, on a accumulé le deuxième but. Oui, on est revenu en fin de première avec un but en avantage numérique. Mais le momentum a toujours été du côté des Sabres. On n'a pas vu justement Buffalo sur les talons. Fait que si un match, on peut avoir le premier but, mettre de la pression sur eux, on pourrait avoir une rencontre complètement différente. Donc oui, ça a été un mauvais match, on ne se le cachera pas, mais de là à tout re-questionner le système de jeu et tout ça, là, je veux dire, on va se calmer un peu.
Hey, moi, je m'en veux d'avoir mis Buffalo en 6. Je regarde ça et je me dis comment le Canadien va faire pour gagner un match en taux. Cole Caulfield est absent. On ne le voit pas. Il se débarrasse de la rondelle, le marqueur de 51 buts. Il arrive quoi, Alex, avec Cole Caulfield?
Ben, c'est sûr que il n'y a pas sa confiance en ce moment. On l'a vu à un moment donné, en troisième période. Il avait une belle chance de marquer avec un tir en plein milieu du chest du goaler. Là, un Caulfield en saison régulière l'aurait mis top net directement. Clairement, sa confiance est affectée en ce moment. Puis je pense qu'une manière peut-être de le relancer, ce serait de peut-être bouger les trios. Là. C'est sûr qu'après un match, Martin Saint-Louis n'a pas l'habitude de peser sur le bouton panique puis de remanier tous ses trios. Mais je pense que peut-être de le séparer de Suzuki, d'essayer de nouvelles combinaisons, je pense que ça pourrait l'inciter. Puis ça prend plus de joueurs du Canadien devant le filet. On l'a vu, les buts des Sabres.
Clairement.
Il y avait tout le temps un gros attaquant devant le filet de Dobech. C'est ça qu'il va falloir faire pour le Canadien parce que des tirs en périphérie avec personne devant le filet, oubliez ça, là, ça ne rentrera jamais.
C'est clair, tu as entièrement raison. Pensais-tu que les Sabres étaient aussi bons? Moi, honnêtement, j'avais regardé des matchs dans la saison. J'avais regardé les trois matchs dans la série contre Boston. Je trouvais qu'ils jouaient bien, mais hier, mon Dieu, qu'ils ont été dominants. Toi, tu as été impressionné, toi, par les Sabres.
Moi, qui connais absolument rien au hockey, je dois dire que la comparaison entre la vitesse de jeu, je veux dire, on n'avait pas l'impression qu'on regardait le même sport.
Non, ouais.
Puis là, je sais que vous voulez parler de stratégie puis de hockey, mais je veux quand même plugger une affaire. L'autre affaire qui m'a vraiment marqué, c'est la différence d'ambiance entre la foule à Tampa versus celle à Buffalo. Je ne savais pas que c'était si hockey. En tout cas, l'ambiance était vraiment électrisante.
Puis il y a de quoi avec les Québécois aussi, parce que c'est pas si loin. Puis moi, ce que j'ai su, c'est qu'il y a des gens qui avaient, mettons, payé leur billet 150 revente à plus de 1 000 $ pour un billet parce que l'engouement est là. Il y a des gens qui voulaient traverser puis qui trouvaient plus leur compte à Buffalo au niveau des prix versus qu'à Montréal.
Ouais. Alex, tu vois comment le match de vendredi? Je sais qu'on va avoir le temps d'en parler demain, là, mais comment tu vois ça? Le Canadien, es-tu affecté mentalement ou tu te dis c'est une équipe qui a toujours su rebondir?
Non, je pense que c'est une équipe qui sait rebondir. Puis comme je l'ai dit précédemment, Martin Saint-Louis a fait une belle analyse de ce match-là. Le début de match va être crucial là, pour la rencontre de vendredi. Il faut sortir fort parce qu'on a vu que les Sabres, eux, sont sortis comme un boulet de canon. Puis on va leur donner les Sabres là, depuis le mois de décembre. C'est la meilleure équipe dans la Ligue nationale là, sur pas mal toutes les statistiques, les points au classement, tout ça. Mais c'est une équipe qui est habitué de, comment dire, qui n'a pas fait face à beaucoup d'adversité là, depuis qu'ils sont bons. Même la série contre les Bruins, oui, dans le premier match, ils sont revenus de l'arrière. Mais après ça, ils ont mené cette série-là. On a l'impression qu'il y avait le vent dans les voiles. Si le Canadien peut leur mettre le doute dans le match numéro 2, aller remporter ça, puis on retourne à Montréal, selon moi, le vent pourrait tourner assez vite. Mais c'est sûr que ça va prendre des ajustements, parce que si on rejoue le match qu'on a joué hier, oubliez ça, les Sabres vont gagner ça assez facilement.
Alex, j'aime ton positivisme, vraiment. On fait rapidement le tour de d'autres séries. Victoire des Ducks 3-1 hier sur les Golden Knights de Vegas. Sans surprise, les Ducks ont dominé le match. Les Knights ont marqué, il restait 6 secondes à faire. J'ai l'impression que le vent vient de tourner de bord dans cette série-là.
Ben, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment les jeunes Ducks là, qui ont poussé la victoire hier, notamment Beckett Senecki, on a vu Leo Carlson aussi. C'est les jeunes qui vont falloir qu'ils poussent ces clubs-là. Puis c'est la même chose avec le Canadien. Il va falloir voir les Juraj, un demi-dove, va falloir amener. Il n'y a toujours pas de but en série, il va falloir qu'ils marquent. Donc, si on transpose l'équipe des Ducks avec celle du Canadien, je pense qu'il y a certains parallèles à faire. Et du côté des Ducks, ben, les jeunes se sont levés puis ont poussé vers la victoire. Donc, ils s'en retournent à la maison 1-1. C'est ce qu'on veut voir aussi du Canadien dans la série contre Buffalo.
Ce soir, 20h sur les ondes de TVA Sports, troisième match de la série Hurricanes Flyers. Ça se transporte à Philadelphie. Les Hurricanes mènent 2-0 dans la série. De la façon que les Kings jouent depuis le début des séries, je vois pas comment ils vont faire pour perdre un match contre les Flyers, mais les Flyers à domicile sont toujours féroces.
Ben ouais, moi je pense que les Flyers là, vont vraiment tout donner ce soir. Premier match à domicile, en retard 0-2, ils peuvent pas perdre ce match-là, sinon c'est une sentence de mort. Là. Je veux dire, ils peuvent gagner le match numéro 4, mais sinon de retour en Caroline, le match numéro 5, ça va être fatal pour eux. Mais moi je pense que les Flyers vont sortir fort, vont être capables de soutirer un match. Je veux dire, les Hurricanes vont bien finir par perdre un moment donné, là, ça n'a comme pas de bon sens. Mais oui, je veux dire, les Hurricanes semblent destinés, là. Peu importe qui va sortir la série Canadien Sable, ça va être difficile de ne pas prendre les Hurricanes pour se rendre en finale de la Coupe d'Amérique.
Mais t'as raison, Alex, les Hurricanes vont finir par perdre un match contre sont gros, sont habillés en bleu. S'appellent les Sables de Buffalo. Non, je t'agace. Hey, Alex Laramie, on se reparle demain pour justement le match Hurricanes Flyers et le prélude au match Canadien Sable.
Yes, yeah, toujours un plaisir à demain.
Hey, salut, merci. Alex Laramie, chroniqueur sportif pour nous à Boulevard 101, journaliste au 99.5 Montréal.
Les vrais enjeux.
Caucus avec Antonine Iaccarini. Merci en tour de nous avoir permis de parler hockey au début de ton caucus.
Comme si tu avais besoin de ma permission,
compte
franchement.
Compte tenu que le caucus est de midi à 12h30, mais là, tu sais, il fallait parler de
mais
cette tranche-là.
Jeff, c'est très représentatif de ce qui se passe au Québec en ce moment. Dans le sens qu'il y a moins de place pour parler de politique.
C'est clair.
Les gens n'ont pas la tête à ça. Je pense que ça aide un peu la nouvelle première minute.
Ben oui.
En passant. Donc, c'est dans l'air du temps. Le monde est hockey en ce moment.
Ouais, je crois que c'est vendredi dernier que j'ai fait jouer le Vox Pop. Il me semble que tu n'étais pas avec nous. Vox Pop d'Andy Saint-André.
Non, j'étais là.
T'étais là, ouais, c'est
puis
ça.
Le monde ne savait pas c'était qui la première minute.
Le monde ne savait pas c'était Christine Fréchette, et voilà.
Puis on avait suggéré de faire un Vox Pop en nommant des joueurs de hockey ou l'entraîneur-chef. Et notre hypothèse, c'était que ça se corrait.
Le petit Cole Caulfield va scorer plus fort que.
Peut-être qu'ils ne connaissent pas leur position pour leur numéro, mais ils seraient sûrement capables de dire que c'est un joueur de hockey au moins.
C'est ça.
Première enquête terminée dans le cas de la saga Pablo Rodriguez. Et c'est justement là, la députée Sona Lakoyen qui est reconnue coupable de manque d'éthique. Sona Lakoyen, Olivier. Ce qui fait en sorte qu'elle reçoit un blâme de la commissaire à l'éthique et une amende de 8 000 $.
Oui, une amende, là, c'est quand même pas banal. Elle était très confiante hein, quand elle nous parlait. Là, elle nous disait qu'elle serait blanchie de tout.
Mais,
là,
elle avait rien fait. Mais là, elle a changé le titre de conversation WhatsApp. Elle a dit à ses employés, « Hey, là, quand on va vous questionner, vous dites ça, mais elle était coupable de rien. »
Non, c'est ça. Donc, en plus d'être blâmée pour un usage incorrect des fonds publics et des ressources de l'Assemblée nationale, elle est également blâmée pour avoir entravé l'enquête. Donc, une mauvaise collaboration de son côté. Effectivement, on essaye un peu de balayer les choses sous le tapis. Ce qu'on voit dans le rapport de la commissaire à l'éthique, c'est que le bureau de Sona Lakoyen, Olivier, la députée libérale de Chomedey, était un vrai « war room ».
Ouais.
OK, donc là, le téléphone sonnait, on faisait des appels. Tout ce qui concernait la course à la chefferie de Pablo Rodriguez, là, ça se passait beaucoup dans ce bureau-là. Je rappelle, Pascal le disait pendant les manchettes, là, qu'il y a une différence à faire très, très nette entre les ressources publiques et les ressources d'un parti politique. Donc, quand tu fais une course à la chefferie, tu es censé utiliser ton argent de parti politique, donc celui que tu reçois des dons des gens, de tes militants, et aussi de l'argent qui est reçu à la suite des élections selon le nombre de votes reçus. Mais le budget d'un député, donc pour payer ses employés, pour payer son bureau, son matériel, sa photocopieuse, son imprimante, ça, c'est pas supposé servir à des élections, que ce soit une course à la chefferie ou l'élection générale, ou à des levées de fonds, par exemple, si tu veux faire un cocktail de financement pour ton parti politique, c'est bien correct, mais t'as pas le droit d'imprimer tes pamphlets dans ton bureau de comté. C'est très, très simple à gérer. Donc, ça, là... Ça regarde pas bien pour M. Rodriguez, parce que c'était, comme tu le disais, la première enquête d'une série. Il reste l'UPAC, puis il reste le directeur général des élections également. Il faut rappeler aussi que M. Rodriguez avait loué le local qui appartenait à son épouse pour la campagne électorale, ce qui était également là, quelque chose qui était douteux du côté de l'éthique. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu corruption des votes payés? Ça, c'est le dossier de l'UPAC et ça risque de prendre un peu plus de temps. Mm-hmm. Mais pour ce qui est de la manière dont on a géré cette course à la chefferie, la campagne de M. Rodriguez, c'est une tâche importante à son dossier.
Vraiment. Pascal, avant qu'on continue, il y avait une note en circulation.
Oui, je veux juste vous mentionner qu'il y a un petit ralentissement, même un blocage, parce que les travaux sur Laurentienne Sud, à la hauteur du boulevard Le Bourgneuf, ben, la voie droite est complètement barrée, fait que ça ralentit, puis c'est à savoir dans votre circulation.
Merci beaucoup, Pascal. Hey, on continue sur le Parti libéral. Charles Milliard, on l'écoute.
Well, I can say that in both official languages, maybe in Spanish if you want to.
Je peux vous le dire dans les deux langues officielles et en espagnol aussi.
Pour ceux qui n'avaient pas compris, j'ai gardé la traduction. My God, je ne savais pas qu'on avait deux langues officielles au Québec.
Pauvre Charles Billiard.
Je ne savais pas qu'on voulait peut-être une troisième langue officielle avec l'espagnol.
Ben, il a dit deux langues officielles en plus l'espagnol. Bon, écoute... Ça, hey, fait...
ça, c'est un échappé majeur
c'est
de ballon.
Ça fait
là.
Trois pleurs de bananes en quelques jours sur les questions de langue avec M. Milliard. Tu sais, si on était dans Mario Kart, là, les pleurs, là, puis c'est « Wouh! » Là, le char prend le clou.
Ouais, il n'y a pas
là...
une banane, il y en a dix.
Il y en a dix.
Puis là, t'sais, si tu as trois vies, ben c'est déjà fini.
C'est fini, là. Puis je veux juste dire, on a cinq semaines de session parlementaire.
Oui.
Et ces semaines-là, ça sert... au chef à se définir pour la campagne électorale. M. Milliard n'est pas très connu, Mme Fréchette non plus. Pourquoi vous pensez que les couteaux se sont mis à voler aussi bas rapidement? C'est parce que la course, là, c'est de définir ton adversaire. Mais toi, tu veux te définir toi-même. C'est ça, là, le combat. Et malheureusement, pour M. Milliard, ça n'a pas été une très bonne semaine. D'abord, il y a eu le petit lapin dans le chapeau là, que Christine Fréchette a sorti avec son projet de loi sur la clause dérogatoire pour nos langues linguistiques. Il a été pogné un petit peu sa défensive à s'expliquer. Il s'est perdu en explication.
Il n'a pas su nous convaincre ici sur les ondes de Marceau le matin. C'était à réécouter sur blvd.fm.
Puis, mais ça a permis, ça a eu ça de bon, c'est que j'en ai appris davantage sur sa position sur la langue. Mm-hmm. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un recul. Là. Donc, ce qu'on a comme avancement sur les langues linguistiques au Québec, le Parti libéral veut reculer. Il dit que ça affecte trop le secteur des affaires. Et il a insisté aussi beaucoup sur la qualité du bon parler français là, puis l'enseignement du français. C'est une autre vision des choses. Moi, personnellement, je pense pas... c'est très important de bien parler, mais je pense pas que ça va changer le visage linguistique du Québec et protéger le français, qu'on conjugue mieux nos verbes. Donc, il s'est enfargé là-dessus. Ses explications sont un peu longues. Et maintenant, il déclare... c'est vraiment une gaffe, OK? C'est pas... Je pense pas qu'il pense vraiment qu'il y a deux langues officielles au Québec, OK? Parce que pour ceux qui le savent pas, il y a une langue officielle au Québec, c'est le français.
Ouais.
Il y a le Nouveau-Brunswick, qui est bilingue. Mm-hmm. Et après ça, tu as le Canada, le fédéral, qui est supposément bilingue. Là, mettons
ouais, parce
que le bilinguisme marche juste d'un bord.
Non, mais hey, notre nouvelle gouverneur général parle français.
Ah oui, c'est vrai. Faut,
on
il faut
est
que
correct.
Je m'extasie.
On a réglé ça.
Tout est réglé. Puis ouais, oui. Le nouveau PDG d'Air Canada aussi.
Va parler français.
Tout va bien dans ce pays-là.
Bon, qu'est-ce qu'on fait à se plaindre du français?
Qu'est-ce qu'on se plaint? Donc, pour M. Milliard, ce lapsus-là, ben, ça a été l'occasion pour les adversaires politiques de sauter là-dessus comme la misère sur le pauvre monde, et Jean-François Roberge, et qui est allé dire que c'était le Justin Trudeau du Québec. Charles Milliard, le PQ, qui a dit que M. Milliard était mal préparé, connaissait pas le Québec, il était pas prêt à être premier ministre.
Trouves-tu ça un peu intense?
Ben, c'est un petit peu intense, là. Mais c'est ça que je disais, on est dans une course, là. Fait qu'il y a exagération, parce qu'on caricature les choses, ouais. Parce que ça presse de définir les autres. D'ailleurs, les libéraux se sont défendus. Je me disais, lequel va sortir en premier cette information-là? Il y en a une autre qui avait dit ça il y a quelques années, que le Québec était bilingue, et c'était une caquiste. C'était Sonia Lebel. Elle avait fait ce lapsus, puis ça l'avait suivi pendant un bon bout de temps, puis les péquistes n'arrêtaient pas de remettre sur le dos. Donc, évidemment, les libéraux se sont gâtés, ont ressorti cette citation-là, mais...
Moi, c'est pas parce qu'un est mauvais que toi, t'es meilleur.
Ben.
T'es les deux mauvais.
Ben, disons que c'est des lapsus, mais M. Milliard doit vraiment faire attention dans les prochaines semaines parce que, en tout cas, sur la question de la langue, ça a l'air glissant. Puis, de manière plus générale, en dehors de son petit lapsus, là, lui, là, il doit concilier son caucus, qui est très montréalais, qui est très anglophone, mais il doit aller séduire le vote francophone, le vote des régions. Déjà que je trouve que son offre en langue est ordinaire, sur le fond des choses. Sur la forme, il faut qu'il soit convaincant.
Mais est-ce qu'il avait fait bon usage de son avant-dernière course à la chefferie, M. Milliard, parce qu'il était souvent en région, il semblait être écouté, il avait été beaucoup à la rencontre. Ça peut-être être un héritage qui lui reste pour la suite, même s'il y a des petits accros?
Bien, moi, je pense qu'il a plus de potentiel de pogner en région que Pablo Rodriguez
ça, c'est sûr.
L'avait. Il arrive aussi, il n'y a pas de boulet beaucoup, il est tout neuf en politique, mais on voit aussi que l'inexpérience apporte certains obstacles et puis que ça lui fait faire certaines gaffes. Mais tu sais, au-delà d'être sympathique puis de faire le tour des régions, si ce que tu vas dire aux régions, c'est on va reculer sur la langue puis sur la laïcité, puis je te dis pas là, qu'en région, là, tu sais, le monde, c'est leur préoccupation de tous les instants. Là. Le coût de la vie, c'est important, l'économie, les services publics, tout ça va être important aussi. Il va peut-être avoir une offre plus alléchante, mais quand même, la langue française, moi, les gens m'en parlent beaucoup. Là.
On peut pas mettre de côté notre question identitaire.
Ben non.
Puis présentement, ce que le Parti libéral essaie de faire, et je le dis très ouvertement, ils me perdent avec ça.
Mm-hmm.
Pas grave la laïcité. Pas grave, la
c'est
langue.
Des faux
pas
enjeux, grave. Alors.
C'est
Dieu.
Ça. Ouais. Hey, on va parler d'économie puis de finances publiques.
Bien
pas...
sûr.
Ben oui. Mais l'identité, notre identité qu'on a, ça nous définit. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est des Québécois, on n'est pas des Canadiens anglais de l'Ouest.
Ben, on veut garder notre culture, on veut continuer à parler notre langue, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être fermé sur le monde puis pas apprendre d'autres
pas
langues.
Pas fermé sur le monde
parce
du
que
tout.
Ça, j'entends ça beaucoup.
C'est
important d'être bilingue.
Ben oui,
ben oui, mais pour être bilingue, il faut d'abord qu'on puisse parler, travailler en français. Puis après ça. Puis d'ailleurs, on n'a pas à être gêné au Québec. Là. On est beaucoup bilingue. Puis on est pas
ben
mal,
oui.
On parle pas mal plus l'autre langue officielle, pour citer Charles Millard, que le contraire.
Clairement. Autre problème en circulation,
oui,
Pascal?
Je me suis même retournée là, pour voir s'il pleuvait abondamment ou quoi que ce soit, mais d'autres sorties de route. Là. Incident sur la route 136 Est, sur le boulevard Champlain. La circulation est en alternance entre l'intersection du parc du domaine des retraités puis la rue de Lens-Victoria. Sortie depuis autoroute Henri IV Sud. Voie de gauche, voie de droite fermée. On vous redirige par la route 136 Ouest. Écoutez, il y a des sorties de route. Là. Il se passe quelque chose. Mais...
Soyez prudents sur la route. Sans doute qu'il doit y avoir de l'aquaplanage. Rapidement, 127 circonscriptions au lieu de 125. On a trouvé un accord. Là, tu vas me dire, « Hey, Jeff, t'exagères peut-être, mais moi, pour moi, là, c'est deux circonscriptions de plus. » C'est encore une preuve que le gouvernement, ça fait juste... L'État, ça fait juste grossir.
Oui. Ton questionnement est absolument légitime. Puis... Moi, ce qui me dérange, c'est pas tant l'ajout de sièges comme tel. 125 sièges pour la grosseur de territoire qu'on a, c'est pas énorme en passant. Puis on a des très grosses circonscriptions.
Oui, ça, je suis entièrement d'accord.
Mais
le message...
Moi, ce qui me dérange le plus, c'est qu'on fasse ça un peu sous le coin de la table. Fait que c'est pas une réflexion globale.
J'aime ça, ton point.
Et c'est un peu réactif. Et en plus, ben, ça remet en question, évidemment, le travail de la commission indépendante qui est censée faire ce travail-là. Là, on dit non, là, on contrecarre ça, avec raison en passant, parce que, honnêtement, la circonscription en Gaspésie là, qu'ils voulaient faire. Là. Je veux dire, ça n'a aucun sens, la grosseur du territoire qui était à couvrir. C'était vraiment une perte. Et on enlevait aussi une circonscription à l'est de Montréal, une région d'ailleurs qui a été négligée abondamment par les gouvernements. Donc, il y avait... Puis c'est vrai que dans les Laurentides, dans la Naudière, il y a une augmentation démographique. Là. Tu sais, ça, c'est absolument justifié. Mais c'est ça. Moi, je ne suis pas en désaccord avec la décision de contrecarrer la fusion de circonscriptions dans ces régions spécifiques-là, mais je trouve qu'on est un petit peu sur le coin de la table.
Oui, je suis d'accord avec toi. Ça a l'air de « Hey, on va dessiner de quoi sur une napkin? » Ah, ça donne 127!
Oui, puis si on veut que les députés se mettent à se mêler des circonscriptions, tu sais, on voit aux États-Unis le phénomène du gerrymandering.
En effet!
On veut vraiment, vraiment pas ça. Donc, il faut être extrêmement prudent, mais en même temps, j'ai trouvé que la commission n'avait pas de sensibilité pour les questions régionales, locales. Tu sais, c'est pas juste une formule mathématique faire des circonscriptions.
Non.
Donc, il faudrait qu'on revienne à une commission indépendante qui fait son travail, mais il faudrait qu'ils revoient un petit peu leurs critères.
Dans 30 minutes, grosse annonce en itinérance à Québec. Notre journaliste sur le terrain, Mathias Turcotte, il sera. Il va vous faire un résumé dans Gravel, dans le retour. Il va être avec nous également demain matin, dans Marceau, le matin. Tu t'attends à quoi? Parce que moi, honnêtement, là, j'ai fréquenté deux commerces de Saint-Roch dans les deux dernières semaines sur la rue Saint-Joseph. Ouf, je suis un petit gars de la Basse-Ville, puis je l'ai trouvé tough.
Ah oui, non, c'est vraiment un enjeu qui est extrêmement criant, et c'est pas un enjeu qui est facile à régler. Tu sais,
ben
j'entends des fois les oppositions, la CAQ, c'est un échec sur les... C'est pas
complexe,
facile à gérer.
C'est multifacteur.
Soins de santé, crise du logement, toute sécurité publique, tout est
coût,
vraiment
coût
multifactoriel. Coût de la vie également.
T'sais, ça va même jusqu'à des pensions maintenant de vieillesse qui sont pas assez élevées en fonction du coût de la vie. Quand on parle avec Éric Boulay de la Maison Lobrivière, il y a une augmentation d'itinérance chez les 64-70 ans.
Puis on le comprend, là, les loyers, je veux dire,
ben oui.
Ça augmente pour eux 1 000 là, pour beaucoup,
ben c'est
énorme. Puis tu as tous les enfants de la DPJ qui sortent à 18 ans.
Les enfants de la DPJ. Après ça, tu as les étudiants même à l'université qui arrivent de région. On voit ça de plus en plus, qui eux aussi, là, les bourses ont pas énormément bougé et qui se retrouvent à faire... Ça, c'est de l'itinérance un peu cachée, mais qui se retrouvent à dormir sur des sofas là, chez les gens puis à pas manger beaucoup. beaucoup pendant leurs vraiment? Études. Donc, on a tout ça. Donc, c'est multifactoriel, mais le gouvernement de la CAQ, le nouveau gouvernement Fréchette, le nouveau, je le mets en guillemets, évidemment, je vais faire un clin d'œil, qui va utiliser une partie de la cagnotte qui avait été réservée par le ministre des Finances. Vous vous rappelez?
Très bonne
le genre de
nouvelle.
Bonbons qu'on avait laissé au prochain leader de la
manœuvre.
CAQ.
Ouais, moi je trouvais pas que c'était des bonbons, je trouvais que c'était une marge de manœuvre et que c'était un peu spécial, mais en même temps normal que le nouveau la nouvelle première ministre ait une petite marge de manœuvre. Mais il y a une partie de cette marge de manœuvre qui sera utilisée pour la lutte à l'itinérance. C'est pas seulement à Québec, on parle aussi de Montréal et de l'Outaouais.
Je suis très heureux parce que depuis le sommet de l'itinérance en septembre 2024, où là tout le monde était reparti en disant faut s'attaquer à l'itinérance, la CAQ n'a pas bougé. Ou bougé très
ben,
peu.
Il y a eu des budgets, mais ça prend plus que ça. C'est parce qu'en plus, on a un enjeu de partage de pouvoir avec les municipalités qui, elles, disent, nous, on se retrouve avec ça, mais c'est pas supposé d'être dans nos responsabilités. On veut bien s'en occuper, mais donnez-nous les moyens pour y arriver. Il y a même des municipalités qui disent, nous, on les veut pas, les pouvoirs. Occupez-vous-en. Donc, il y a comme une discussion de société à y avoir. T'sais.
Vraiment, vraiment. Il faut prendre soin là, des gens qui sont dans le besoin.
Le midi, on en jase à Boulevard Saint-Denis.
Antonine Iaccarini, tu restes avec nous pour la prochaine entrevue?
Oui, parce que je suis très intéressée
bien
en
sûr.
Savoir plus sur ce qui s'en vient avec la transformation numérique de Santé Québec.
Et là, je vais faire un pont entre deux choses que tu disais. Tu viens d'affirmer que tu es très intéressée par le dossier santé numérique, cette transformation numérique-là par Santé Québec. Puis tantôt, tu as dit, « Hey, les couteaux volent bas à l'Assemblée nationale! Hein? Tabarouette! Il faut se définir, puis rapidement, on a juste 5 semaines. » Je te fais entendre un échange entre André Fortin, le chef par intérim, le chef parlementaire pour le Parti libéral du Québec, et la nouvelle première ministre, Christine Fréchette, à propos du dossier santé numérique.
Et là, Madame la Présidente, aujourd'hui, il y a des gens qui se posent des questions, des gens qui ont le cancer et qui savent, qui lisent dans le journal qu'il va avoir moins de traitements d'endoscopie. Ce n'est pas une garantie de continuité des soins, ça.
Réponse de la première ministre. Merci, Madame la Présidente. Bien, je tiens à le rappeler pour peut-être deuxième fois, troisième fois. Santé Québec a été très clair ce matin. Il n'y aura aucun traitement de chimiothérapie qui sera annulé. Et l'ensemble des services destinés aux cas urgents puis aux cas oncologiques sera maintenu.
Yann Langlais-Plante, directeur des relations médias, affaires publiques et relations gouvernementales pour Santé Québec, est avec nous au bout du fil. Yann, merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui.
Bonjour, ça va bien?
Ça va super bien. Yann, qui dit vrai? Est-ce que c'est le Parti libéral et quelques médecins qui sont sortis en disant il va avoir 20 % moins de traitements de chimiothérapie et 60 % moins d'endoscopie en Mauricie ou c'est tout simplement des fausses rumeurs?
Bien, il y a beaucoup de choses qui se disent présentement. Là, si on prend un peu de recul et on se décolle le nez de l'arbre pour regarder la forêt, là, c'est très dur de départager le vrai du faux présentement dans le dossier de santé numérique. Là. Moi, ce que je peux vous dire, puis j'en viens d'entendre l'extrait de la première ministre, puis c'est exactement ce qu'on a confirmé ce matin, notamment sur nos médias sociaux, c'est qu'il n'y a aucun cas urgent qui va être retardé ou mis de côté. Les soins vont être assurés. Il y a certains rendez-vous qui sont pas, par exemple, très, très urgents, qui pourront être déplacés, mais évidemment, il va y avoir un regard clinique. Les médecins qui sont impliqués sur le cas de la personne vont regarder ça pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cas, que le retard puisse causer certains problèmes. Donc, vraiment, là, je tiens à rassurer la population. Là, s'il y a des gens de Québec qui vous écoutent, qui ont de la famille en Mauricie-Centre du Québec, qui se font soigner pour un cancer, là, ils vont avoir accès à leurs soins, puis il va y avoir une continuité de service pour eux. Là. C'est vraiment important de le dire parce que présentement, là, très difficile de départager, comme je disais, le vrai du faux dans tout ce qui se dit. Là.
Comment est-ce qu'on explique ce genre de prestations dans les médias de gens sur le terrain qui vont à visage couvert pour beaucoup, mais quand même qui disent hey, « on n'est vraiment pas prêts ».
Ben, il y a toutes sortes de raisons. Puis, tu sais, je veux pas parler pour ces gens-là. Il y a des médecins qui ont pris la parole. Je pense notamment à Dr. Godet du nord de l'île de Montréal, Dr. Sinot. Il y a plusieurs choses qui nous sont rapportées. Parfois, c'est des gens qui n'ont pas nécessairement suivi la formation dans le cursus qui était supposé la suivre. C'est des gens qui ont une réticence, par exemple, à travailler avec un ordinateur. Puis, il faut le dire, là, au-delà des cas personnels, c'est une grosse gestion de changement. Là, de passer de feuilles de papier à fax, à avoir un ordinateur à côté de soi, puis rentrer des données, d'avoir accès à, à des outils dont on n'avait pas accès avant. C'est une grosse gestion de changement, puis je pense que c'est normal qu'il y ait un peu d'anxiété, qu'il y ait un peu d'appréhension. C'est le cas là, dans n'importe quel lieu de travail, que ce soit en santé ou ailleurs. Quand on a une nouvelle machine qui arrive ou quand il y a un nouveau processus dans le cadre de notre travail, ben ça amène certaines questions puis une certaine anxiété. Donc, il y a beaucoup de ça présentement, puis c'est pour ça qu'on tente le plus possible, parce que ce soit avec vous ce midi, je le fais, mais aussi dans l'ensemble des médias, mais aussi dans nos communications à la population, d'essayer de donner le score juste, là, tu sais, puis d'être factuel dans la présentation de la situation, parce que ça peut créer encore plus d'anxiété là, avec tout ce qui se dit présentement. Donc, c'est un peu ce qui explique là, toutes ces déclarations-là, puis qu'on a de la misère à avoir vraiment l'heure juste sur la situation.
En plus de la grosse gestion du changement, puis évidemment, il y a beaucoup de personnes touchées, fait que ça fait aussi beaucoup de gens qui peuvent venir témoigner positivement ou négativement. Mais il y a toute la joute politique aussi à travers ça. La première ministre, Christine Fréchette, a publié une vidéo en début de semaine pour dire qu'elle était rassurée qu'il fallait aller de l'avant. Qu'est-ce que ça aurait impliqué de retarder le déploiement? Si, par exemple, les politiciens avaient été extrêmement frileux et qu'on avait décidé là, de faire un excès de prudence, qu'est-ce que ça aurait impliqué de votre côté de retarder le déploiement?
Bien, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait deux fois. Puis retarder un projet, il n'y aura jamais de bon moment pour réaliser une transformation comme celle-là. T'sais, que ce soit deux semaines avant, deux semaines après, il y aura toujours des gens qui vont dire c'est pas nécessairement le bon moment. Tout ça, à un moment donné, il faut juste trancher puis dire OK, on le fait, on s'assure d'avoir les meilleurs paramètres possibles, que la formation, par exemple, des médecins, des cliniciens dans ce cas-là, puis des professionnels est à son plus haut niveau. Là, présentement, on est vraiment au-dessus de 90% dans les deux établissements, puis ça se continue jusqu'au déploiement dans la nuit de vendredi à samedi, puis ça va se continuer après. Donc ça, là-dessus, c'est sûr que on a un enjeu, je pense aussi, puis on a eu l'occasion de le dire. Il y a eu des projets dans le passé qui, malheureusement, ont moins bien fonctionné ou il y a eu des problèmes. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine anxiété liée à ça aussi. C'est une grosse transformation. Ça touche deux territoires importants. Ça touche plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ça touche nos soins. Ça touche notre santé aussi. Donc, ça rajoute un degré de sensibilité. Tout ça explique la présente situation. Puis quant au retard, au délai, bien, à un moment donné, on était rendu prêt à le lancer. On avait les voyants qui sont ouverts. Puis de le retarder, ça n'aurait pas changé nécessairement la situation. Puis en plus, le 9 mai, c'est vraiment la date limite parce que on peut pas faire ce genre de transformation-là durant l'été. Il y a beaucoup de gens qui sont en vacances, tout ça. Fait que ça aurait été encore plus difficile dans les semaines à venir. Donc, c'est vraiment le timing, si vous me permettez l'expression, qui est le mieux présentement qu'on a choisi. Les voyants sont ouverts, on a les équipes qui sont engagées, les formations sont en route depuis un certain temps. Donc, on est prêt à se lancer.
C'est sûr qu'on est un peu post-traumatique là, de la SAQ Click puis les déboires informatiques. Ça crée vraiment beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Comment on fait pour avoir appris de ça?
Ben en fait, c'est complètement différent. T'sais, nous, la solution qui est déployée avec Epic, c'est une solution qui a fait ses preuves à l'international. Là. Il y a plusieurs juridictions dans le monde qui utilisent cette solution technologique-là. Il y a à peu près 500 000 médecins à travers le monde qui l'utilisent déjà. Donc, c'est pas quelque chose qui est fait, pour utiliser une expression un peu commune, là, custom. Là. T'sais, c'est une solution qui existe, qui a été éprouvée. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, on ne le fait pas de façon... on fait pas une expansion nationale d'un coup. Là. Demain matin, c'est pas tous les hôpitaux. Par exemple, à Québec, le DSN n'est pas arrivé. Là. Donc, on le fait de façon vraiment circonscrit à deux régions. C'est pour ça qu'on appelle ça des projets vitrines. Puis ce matin, ma collègue vice-présidente Marie Foupart aux opérations faisait une entrevue dans un autre média puis disait, on dit projet vitrine parce qu'on regarde ce qui se passe, puis on veut apprendre de ce qui se passe pour par la suite voir est-ce que c'est la bonne solution à déployer pour l'ensemble du Québec, est-ce qu'on doit apporter des correctifs, est-ce que dans le déploiement, on doit faire ça autrement. Donc, c'est vraiment l'objectif. Donc, on est complètement ailleurs. Puis, évidemment, quand on regarde comment ça s'est passé ailleurs, bien, on s'assure de pas répéter exactement le même processus. Donc, notre recette, on pense que notre recette, dans le cadre du déploiement du DSN, est la bonne. Puis jusqu'à maintenant, ça se passe très bien parce qu'il faut dire que c'est déjà commencé. Là, les données ont commencé à être transférées sur la plateforme. Donc, la solution numérique fonctionne. On pense que le principal enjeu, ça sera au niveau de la gestion de changement, justement. Donc, l'appropriation des gens par la plateforme, puis donner le temps au temps de faire son œuvre pour que les gens soient plus agiles, plus rapides avec l'utilisation de la plateforme.
Pour rappel, on parle avec Yann Langlais-Plante, directeur relations médias, affaires publiques et relations gouvernementales pour Santé Québec. Évidemment, on parle du déploiement du dossier santé numérique qui va débuter ce samedi dans la région de Montréal et la région de la Mauricie. Yann, il y a Moncef Deragy, député pour le Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de santé, qui va être en entrevue avec nous dans une dizaine de minutes, qui demande une enquête de l'autorité des marchés publics. Qu'est-ce que vous en pensez à Santé Québec?
Ben, écoutez, s'il y a une enquête à avoir, on va collaborer. On va la collaborer de la meilleure façon, comme on le fait dans toutes les enquêtes ou toutes les enquêtes ou toutes les questions qu'on nous pose, on est transparent. Évidemment, je ne veux pas rentrer sur le terrain politique, là, c'est pas mon rôle. Mais par exemple, il y a un rapport qui vient d'être déposé là, par l'Autorité des marchés publics sur un autre projet informatique. On a collaboré à l'enquête. Il y a une partie de ce projet-là qui avait commencé avant l'arrivée de Santé Québec. Mais même si on a la responsabilité maintenant, on a collaboré à l'enquête. Donc, peu importe ce qui arrivera dans le futur, on va être au rendez-vous pour répondre aux questions puis justifier nos choix.
Il y a aussi la question de la sécurité des données. Hein. L'ancien ministre du Numérique, Jules Bélanger, est parti en disant que nos données n'étaient pas en sécurité. Cet aspect-là, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance pour le dossier santé numérique?
On peut avoir confiance. La question de la propriété des données, il y a une sensibilité, je dirais, planétaire là-dessus présentement, là, avec le gouvernement qui est au sud, puis c'est pas juste en santé, là, c'est le cas dans différents secteurs. Mais moi, ce que je peux vous dire pour le DSN, c'est que même si la solution numérique est une entreprise américaine, les données de santé vont être hébergées au Canada, à Montréal, puis à Toronto, de façon plus précise. Il y a des mesures vraiment rigoureuses, robustes pour atténuer les risques liés au Cloud Act. C'est sûr que, puis j'ai eu l'occasion de le dire dans un autre micro récemment, le risque zéro n'existe pas présentement. Les hackers, les gens qui tentent de se faufiler entre les mailles du filet, ils trouvent toujours des façons de plus en plus innovantes pour le faire. Donc, ça va être à nos équipes de cybersécurité et à notre fournisseur aussi de travailler en continu, en fait, sur les mesures de sécurité. Puis, c'est ce qui va être fait pour assurer que les gens aient confiance en la solution qui est proposée, puis que nos données soient sécures, puis que tout ça soit imperméable, évidemment.
Yann Langlais-Plante, directeur relations médias, affaires publiques et relations gouvernementales pour Santé Québec, merci beaucoup de nous avoir donné des précisions parce que les gens ont énormément de questions. On va vous souhaiter un bon déploiement à compter de samedi.
On va être là durant la nuit de vendredi à samedi, donc on va surveiller ça.
On va souhaiter pour les Québécois et surtout les gens là, dans les régions où le déploiement va être effectué, que tout se passe bien.
Merci à vous.
Salut, merci. Yann Langlais-Plante. Il va y avoir des bugs, il va y avoir du monde que le traitement ou le rendez-vous va être reporté. On nous assure du côté de Santé Québec, du côté de la première ministre, que tous les gens en urgence, tous les gens qui ont besoin de soins vont être pris en charge. Écoute, on est rendu à se lancer.
Bien, puis, tu sais, honnêtement, c'est vrai qu'il y a un niveau d'urgence pour les soins. C'est pas le fun quand tu te fais retarder ta chirurgie. Mais moi, par exemple, j'ai eu une chirurgie il y a 3 semaines. Moi, 3 mois de plus ou de moins, là. Ça ne changeait pas grand-chose. Quand il faut que tu aies une chimiothérapie parce que tu as un cancer puis que ça évolue puis que ça avance, là, il n'y a aucune place à l'erreur. Peut-être qu'il... T'sais, puis j'ai hâte de voir parce que c'est un énorme réseau et il y a des gens qui ne seront pas contents. Puis tantôt, la personne de Santé Québec, Yann, nous disait qu'il faut reculer puis le nez de l'arbre puis regarder la forêt. Mais quand c'est toi, l'arbre...
Mais c'est difficile.
C'est plus difficile.
Puis même une personne aînée, mettons que c'est sa hanche, puis on se dit « Ah, c'est pas pressant », bien souvent, ça fait en sorte que toutes les capacités cognitives descendent plus rapidement chez un aîné qui n'est pas actif, qui attend sa chirurgie. Fait que même quelque chose qui peut paraître pas pressant peut impacter la vie quotidienne de quelqu'un.
J'espère qu'on va faire preuve de beaucoup de jugement. Oui. Mais j'espère aussi que les gens du réseau vont vraiment faire les efforts pour adopter ce nouveau système-là. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait beaucoup d'engouement pour aller faire les formations. Les gens veulent comprendre. Je pense que c'est la vaste majorité des gens qui vont vraiment le faire de bonne foi. Il faut que les médecins embarquent aussi. Ça, c'est notre système de santé en passant, là. Si vous voulez lancer une solution, un nouveau matériel, un nouvel équipement, si les médecins embarquent pas, là,
non,
ça marchera pas, là.
Mais t'as l'air des facts, c'est vraiment terminé. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un projet pilote. C'est une question qu'on avait par texto. Continue à réagir au 418-971-1021. On sent beaucoup d'inquiétude chez la population et avec raison.
Ben, c'est sûr que c'est pas banal.
Ben non, avec raison. Il est estimé à près de 310 millions de dollars. Il y a eu un investissement additionnel de 95 millions qui a été autorisé en août 2025. On aurait des pénalités additionnelles à payer si on ne déployait pas. Yann l'a très bien expliqué, le 9 mai, qui est la dernière journée. Donc, on va surveiller. On va regarder comment ça va aller. Moi, honnêtement, je souhaite un succès. Je suis loin d'espérer un échec parce que je veux que ça fonctionne en santé puis je veux qu'on puisse justement avancer et avancer adéquatement, enfin, dans un projet numérique.
Qu'est-ce que tu penses qui a le plus de chances d'arriver? Le Canadien qui bat les sabres de Buffalo en série?
De
ou
Buffalo.
Un déploiement seamless dans le système de santé?
Je pense que, ben, si tu me parles de la série Canadien-Buffalo, le Canadien a peu de chances de remporter 4 matchs contre les Sabre.
Okay.
Du côté du dossier santé numérique, et là, je vais donner un avis qui est sûrement très impopulaire chez nos auditeurs, et allez-y, 418-971-1021. Je pense que les chialeux vont se faire entendre, mais que ça sera pas si pire.
Oui, parce que c'est ça. Les gens qui parlent négativement, ça parle toujours plus fort.
C'est ça.
Puis, veut pas, les médias, ben, on va toujours un petit peu vers le plus croustillant,
mais moi,
négatif.
Moi, je suis hyper sceptique. J'espère, là, tu sais, je veux vraiment être positive, puis... mais je suis hyper sceptique. J'ai l'impression que les Canadiens vont gagner contre Buffalo.
Ah, toi, c'est plus
dans
série. André, le Canadien.
Okay. Un peu plus vers ça, mais je suis vraiment prête à être surprise.
Bon. Il faut avoir de l'espoir.
Oui, là, ça fait vivre, il paraît.
Tu vois, on dit par texto 418-971-1001, définitivement le Canadien jusqu'à présent.
Okay.
Il a plus de chances de réussite que santé numérique. Moi, je pense que les médias vont leur sortir l'histoire de la petite madame avec l'ange qui attend trois semaines de plus, puis la famille qui pleure, puis tout le kit.
Ben oui.
Puis je vais vous le dire, ben, honnêtement, je vais être très sensible à ça. Je l'ai vécu avec ma mère, une attente de 18 mois pour une opération ange, ça n'a aucun bon sens.
Absolument.
Donc moi, je pense que nos médias vont nous bourrer d'histoires comme ça, mais que si on creuse un peu, on va se rendre compte que c'est pas si pire que ça. Parce que sinon, Christine Fréchette n'aurait pas mis son saut d'approbation. Elle a bien trop
un risque
à perdre.
Elle s'est collée sur ce projet-là maintenant. Il faut que ça, ça fonctionne.
Exactement.
Mais il faut aussi que les... Moi, je voudrais que les oppositions soient constructives aussi là-dessus. Puis je comprends la tentation.
Oui.
Mais dosez-vous. C'est-à-dire, soyez... critique, surveiller le gouvernement, c'est notre argent, c'est nos soins de santé, c'est super important, mais faites pas exprès non plus de faire dérailler.
Pétez
le projet,
pas les pneus, là.
Ouais, genre.
Va falloir que Santé Québec aussi sorte rapidement, je pense, avec des statistiques. Hey, regardez, on a répondu tel pourcentage de demandes, on a répondu à 95%, ça à 97%, ça à 80%, on a réglé
puis
le
une
problème.
Une fois que c'est fait, là, est-ce qu'on voit une accélération de certaines choses? Il faut qu'on voit les retombées aussi d'avoir abandonné le fax.
J'aimerais ça qu'on cache pas ce qui va moins bien et qu'on va ajuster aussi.
Ben, je les trouve transparents. Honnêtement, ils répondent aux questions, ils se cachent pas. Ça, c'est vraiment un point positif. Puis je pense que ça va les aider à faire passer la pilule.
Tu vois, les gens sont sceptiques par texto et je vous comprends, soit dit en passant, je vous comprends entièrement d'être sceptique. J'étais dans le camp des sceptiques. Je le répète, il y a plein de femmes qui m'ont convaincu du contraire.
Encore une fois, on ne dit pas que ça va être parfait.
Non! Non, non, ça sera pas parfait. Il va avoir des imperfections. Mais bon, en m'en un jour, le fax, hein?
Faut tirer sur le plaster, la gang.
On est en 2026. Mon chef dérageait avec nous après cette courte pause, justement pour continuer sur le dossier santé numérique. Anto, merci d'avoir fait de l'overtime pour nous.
Ça fait plaisir.
Excellent, vous êtes à l'émission d'Angers sur Boulevard 101. Il est déjà 12h55, vous êtes à l'écoute de Boulevard 102.1, c'est l'émission On en jase avec Jeff Fortin, Pascal CV, on jase énormément du dossier santé numérique. On vient d'avoir une entrevue avec le directeur aux relations médias, Yann Langlais-Plante pour Santé Québec. Monsef Déragé est en attente, le porte-parole en matière de santé pour le Parti libéral du Québec, l'opposition officielle. En attendant, vous dire que c'est quelques averses pour aujourd'hui, 9 degrés. 11 degrés demain, 60% de possibilité d'averse. Et pour samedi, c'est ensoleillé à 13 degrés. Pascal Monsef Déragé est en feu à l'autre bout du fil. Il a hâte de nous parler. Il veut nous parler du dossier santé numérique, mais aussi d'un déficit monstrueux à la SAAC. En attendant de parler avec Monsef, qu'est-ce qu'on doit suivre dans l'actualité?
Oh oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui. C'est une journée fort prise par l'actualité. Pénalité de 8 000 $ pour la députée Lacoyanne Olivier. Une motion de blâme qui est recommandée pour infraction éthique. Dans le fond, on l'accuse d'avoir utilisé son bureau de chemédé à des fins partisanes pendant la course à la direction libérale en faveur de Pablo Rodriguez. C'est la conclusion de la commissaire à l'éthique, maître Ariane Mignolet. Et Sona Lacoyanne, qui a également entravé le travail de la commissaire, reste exclue du caucus. Ce sont les dernières informations dans le dossier. On a des choses en politique, bien sûr, mais on a des choses également du côté des langues officielles. Ça fait encore jaser le chef du Parti libéral du Québec, Charles Millière, qui a mis le feu aux poudres à l'Assemblée nationale hier. On faisait référence aux deux langues officielles. La citation exacte, on va l'utiliser, la clause dérogatoire, si on en a besoin. Je peux le dire dans les deux langues officielles, peut-être même en espagnol, si vous le voulez. Il se défend en disant qu'on a fait des amalgames, mentionnant qu'il y a une loi officielle au Québec. Tout le monde le sait qu'il y a deux langues officielles au Canada. Ça, c'est sûr que ça fait réagir, Jeff, tout ce qui concerne le français et autres. Encore beaucoup d'inquiétudes sur le dossier santé numérique, mais on va de l'avant. On va en reparler, comme tu disais, dans les prochains instants. Je dois aussi te mentionner qu'il y a un redécoupage électoral. Il y a un accord conclu à Québec. On fait passer de 125 à 127 le nombre de comtés. Et ça, c'est un accord entre la CAQ, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, le Parti québécois. Et c'est le contenu d'une entente qui se retrouve dans un projet de loi qui a été déposé ce matin par le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge.
On en a parlé dans le caucus avec Antonine Iacarini, que vous allez pouvoir réécouter sur blvd.fm.
Et belle nouvelle pour la Ville de Québec, qui a un fonds d'investissement santé mentale. C'est pour aider plus de 2 300 jeunes de la région de Québec. C'est 100 000 $, bon, une enveloppe budgétaire de la Ville, et aussi de la Sun Life jusqu'à 75 000 $. Donc, ça va être généré par la Fondation Jeunes en tête. C'est pour accroître l'accessibilité aux soins de santé pour les adolescents et les adolescentes ici dans la Ville de Québec. Et on attend aussi les informations d'un point de presse important. En itinérance, on irait remettre une enveloppe importante au niveau du provincial.
Prenons soin de notre santé mentale, surtout de nos jeunes ici à Québec. D'autres façons de nous écouter, c'est le BLVD 102.1. C'est disponible sur notre application gratuitement App Store et Google Play Store. Et si vous êtes en télétravail à l'heure actuelle, vous dites écoutez BLVD 102.1, votre haut-parleur intelligent, et on apparaît dans vos oreilles. Le prochain invité est en feu, en furie. Il est fâché après le gouvernement du Québec, le gouvernement de la CAQ de Christine Fréchette. C'est le porte-parole en santé et en transport pour le Parti libéral du Québec, Monsef Deragy. Monsieur Deragy, comment allez-vous?
Ça va très bien, M. Fortin. Merci encore une fois pour cette opportunité.
Ça fait très plaisir. M. Deragy, on va commencer avec le dossier santé numérique. Lancement ce samedi. Aujourd'hui, Nicolas Lachance, un journaliste que je respecte énormément du Journal de Québec, Journal de Montréal, nous disait que 20 % des chimiothérapies et 60 % des endoscopies seraient justement réduits en raison du lancement du dossier santé numérique. La première ministre dit pas d'inquiétude, les cas urgents vont être traités. Vous, est-ce que vous êtes inquiet comme nos auditeurs au 418-971-1021?
Ben absolument, je suis très inquiet parce que je suis en contact avec les professionnels de la santé depuis au moins 4-5 semaines, que ce soit en Mauricie, centre du Québec, et aussi à Montréal. Et je salue l'excellent travail de M. Nicolas Lachance et je vais vous dire pourquoi. Moi, j'étais au fameux briefing. Il y avait un briefing de Santé Québec le matin, il y a deux, trois semaines. En après-midi, il y avait aussi des journalistes et on nous a dit, écoutez bien, on nous a dit qu'il n'y a pas d'impact pendant la réunion. Mm-hmm. C'est après que les médecins ont parlé avec des journalistes, il y a des gens qui se sont échangés d'informations, qu'après que Santé Québec a commencé à changer sa version des faits. Et c'est pour cela que c'est très préoccupant, parce que hier, pendant que je posais ma question à Mme la ministre, et elle essaie, excusez-moi le terme, de me niaiser avec une mauvaise réponse, moi je recevais des messages de un des sites projet vitrine, on me disait qu'il y a des bugs et que le nombre ne cesse d'augmenter et ils n'arrivent même pas à répondre aux tickets créés par les employés. Donc oui, il y a de l'inquiétude, oui, il y a de l'incertitude et il ne faut pas la lier uniquement à la gestion du changement. Ce n'est pas si facile que ça.
Oui, c'est ça. Ce que je comprends, vous, là, votre inquiétude, c'est de dire, hey, coudonc, moi, je suis bon joueur, je me présente, je m'en vais à Santé Québec, j'ai OK, expliquez-moi ça parce que ça me tente d'aller dans mes yeux et de dire, OK, pas d'inquiétude, guys. Mais là, vous sortez de là en vous faisant dire, il n'y a pas d'inquiétude. Mais quand vous parlez avec les professionnels, ce n'est pas des inquiétudes nécessairement sur la formation ou le technique, c'est des inquiétudes sur les bugs informatiques qu'il peut y avoir et le délestage.
Oui, les banques, et c'est pour cela que nous étions très collaboratifs avec le gouvernement. Nous avons proposé trois solutions. Augmenter le nombre de représentants EPIC, et pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi EPIC? C'est la compagnie qui nous a vendu le logiciel. C'est normal, vous, dont, et je vous ai déjà dit ça, vous, dans votre radio, vous changez le logiciel, vous allez avoir un super utilisateur qui va essayer de vous expliquer comment ça marche. Mais quand ça bloque, votre collègue, ce n'est pas un informaticien, c'est un journaliste. Il va vous dire, écoutez, ça dépasse mon niveau de compétence. Ben là, on va aller appeler la compagnie mère qui vous a créé le logiciel. C'est la même chose maintenant avec DSN. Ce qu'on a demandé, s'il vous plaît, demander, exiger que les représentants d'EPIC soient dans les deux sites et que le centre de commandement soit bien équipé avec des gens compétents en informatique. Et troisième point, soyez honnête avec les Québécois. Ce samedi, il va y avoir la fermeture de 6 sites. À Montréal, l'hôpital Jean-Talon, Fleury, Sacré-Cœur, Maurice et Centre du Québec, Drummondville, Victoriaville et Trois-Rivières. Ne me dites pas qu'on ne va pas avoir du délestage. Ne me dites pas qu'on ne va pas avoir une pression sur les services. Donc, il fallait être honnête avec les Québécois, surtout ceux qui vont utiliser les services de santé dans cette région, mais aussi s'engager à leur donner des dates pour récupérer leur chirurgie retardée, pour récupérer le délestage. Et ça, on ne l'a pas entendu encore. On ne sait même pas à quel moment le délestage va commencer. On ne sait même pas à quel moment le plan pour récupérer le temps perdu va commencer. Et c'est ça que je déplore, c'est cette opacité de la ministre, parce que c'est la ministre de la Santé. Les gens, ils ont élu la CAQ, ils ont donné un mandat fort à la CAQ. Moi, ce n'est pas Santé Québec. Santé Québec, ce n'est pas des politiciens. Ils doivent gérer les opérations et non pas se mêler de politique. Et c'est pour cela que je suis extrêmement fâché, parce que on s'en va vers le mur et on ne donne pas la réalité aux Québécois.
C'est super complexe pour quelqu'un qui entend les deux côtés de la médaille de se positionner. D'un côté, on va de l'avant, c'est le moment, ça se passe bien, tout est au vert. Du côté du plancher, de votre côté, on entend d'autres choses. On se trouve-tu entre les deux? Comment est-ce qu'on peut prendre un risque politique aussi fort que celui que Mme Fréchette prend en ce moment à l'aube des élections et pas être certain que ça va fonctionner?
Bah, probablement, on va le savoir un peu plus tard, parce qu'ils ont pris aussi un risque avec la SAC, où ils nous ont entourloupés parce qu'ils ne nous ont pas donné les bons indicateurs.
Mais on doit avoir appris de ça, je ne peux pas croire, justement, ça a été un grand scandale.
Je l'espère, mais l'Autorité des marchés publics aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez le temps de lire
ben, rapport. J'ai justement éclabousse, ça devant moi. Pour le,
éclabousse, pour... absolument, ouais. Éclabousse le gouvernement caquiste, là.
Pour le, puis je vais faire une mention pour justement le projet de CIFA qui me visait à moderniser le système financier d'approvisionnement du réseau de la santé. On vient éclabousser la CAQ en disant que le coût de développement du projet estimé à 96,2 millions en 2022 ont explosé pour atteindre 300 millions de dollars en février 2026. Et le ministère de la Santé qui a signé un méga contrat informatique de centaines de millions de dollars avec LGS et IBM sans disposer du budget nécessaire pour livrer l'ensemble du projet. Alors, la CAQ est sévèrement blâmée par l'AMP.
Ouais. Ben, c'est ça qui n'est pas du tout rassurant. Et je vais juste vous lire deux choses. Une sous-implication dans le suivi du projet. Je peux vous garantir, si vous ouvrez les lignes maintenant, les gens vont penser que je parle de la SAC. L'absence de vérification adéquate avant la signature du contrat, ben c'est la même chose. On joue dans le même film. Donc, quand on essaye de me dire que le gouvernement a l'air Fréchette et différent de l'air Legault, c'est la même chose. Ce sont les mêmes acteurs, malheureusement. Ils n'ont pas livré les attentes et ils n'ont pas été à la hauteur des attentes des Québécois. C'est ce que je peux retenir, parce que c'est les mêmes failles de gouvernance. C'est les mêmes projets mal préparés. C'est les mêmes reproches. Et là, c'est l'Autorité des marchés publics qui vient éclabousser et le ministère, mais aussi dit que Santé Québec, attention là, ils n'ont pas probablement la bonne démarche pour continuer à gérer ce projet.
Pour rappel, on parle avec Moncef Déragi, porte-parole en matière de santé et de transport pour ce qui est du Parti libéral du Québec, c'est-à-dire l'opposition officielle. Monsieur Déragi, vous avez demandé à l'AMP justement de se pencher également sur le dossier santé numérique. J'imagine qu'un rapport comme aujourd'hui, ça vous donne la légitimité encore plus de mettre de la pression sur le gouvernement?
Ben, vous savez, on a pas mal de tendance au Québec à chialer sur nos institutions, mais moi, je fais confiance à l'Autorité des marchés publics. Ils l'ont démontré encore une fois parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de questions mardi dernier, parce que les journalistes étaient surpris, parce que je faisais mon travail de député. Je ne suis pas enquêteur. Et je n'ai pas la légitimité de prétendre aujourd'hui que je suis enquêteur. Mais je fais très bien mon travail. Quand quelqu'un m'informe pourquoi il y avait deux appels d'offres, un a été annulé, l'autre a été modifié et que c'est EPIC qui l'a gagné, ben j'ai le droit de demander aux autorités compétentes, s'il vous plaît, pouvez-vous fouiller pour savoir pourquoi l'appel d'offres a été changé, pourquoi EPIC, qui n'a pas été qualifié dans le premier, s'est qualifié dans le deuxième et il a obtenu le contrat. Pourquoi ? Parce qu'on doit savoir. Est-ce qu'il y avait quelqu'un au ministère qui avait un biais directement d'emblée d'utiliser EPIC ? Et pourquoi ? Parce que c'est contraire aux règles éthiques de liberté du marché et qu'on donne les mêmes chances égales à n'importe quel fournisseur de services. Et j'espère que l'autorité des marchés publics, j'ai envoyé une demande officielle au PDG de l'autorité des marchés publics, j'espère que ils vont aussi fouiller le dossier santé numérique et le contrat.
Ben, j'imagine qu'avec ce qui vient de tomber, ils vont le faire. Hey, autre sujet, quand on s'est parlé hors d'onde, vous avez dit « je suis en furie, Jean-François », mais j'ai dit « voyons, mon chef des régies jamais fâché, Pascal, il est toujours heureux, il est toujours dynamique ». Mais là, vous me parlez quoi? D'un déficit d'au-dessus de 600 millions de dollars pour la SAAC? Qu'est-ce qui se passe là?
Et vous savez, pourquoi je suis fâché, parce que tout ça était prévisible et malheureusement, les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans leur voiture, qui voient que la vie elle est dure, qu'ils voient l'essence, elle coûte cher, le coût de la vie, l'inflation, les banques alimentaires, et on a une société d'État, où on a des vice-présidents et des PDG payés 250 000 dollars avec des primes, et ils étaient incapables de bien gérer cette société d'État. Le déficit cumulé aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, c'est 126 millions de dollars. Le déficit de l'année actuelle, cette année-là, la SAAC a rajouté 135 millions de plus. Donc, on se ramasse avec presque un demi-milliard du déficit cumulé de la société d'assurance automobile et sans oublier l'endettement très préoccupant.
Non,
une société qui s'endette davantage.
Ah, il y a tellement à revoir tout l'ensemble de ce qui se passe à la SAAC. Ça fait pas de doute dans mon esprit. Je termine l'entrevue, M. Déragé, en vous demandant, allez-vous dire à Charles Milliard que c'est juste le français, la langue officielle au Québec?
Mais non, vous êtes bien plus... Écoutez, c'est pas vrai.
Ben non, mais c'est parce qu'il a parlé de l'anglais. Il a même dit en espagnol. Là qu'est-ce qui se passe avec mon Québec?
Ben, écoutez, j'étais dans ce point de presse. Franchement, pensez vraiment et sérieusement, quelqu'un né à Lévis, quelqu'un qui a à cœur la culture québécoise et la langue française, va penser comme ça. Écoutez, c'est rendu bas de la part de la CAQ. C'est pas ce qu'il voulait dire, du tout. Et il sait très bien que c'est le français au Québec et c'est une seule langue officielle. Ça a été dans un contexte vraiment particulier. C'est pas ce qu'il voulait dire du tout. Là, je jouerai jamais le jeu de la CAQ. Je demande à la CAQ de bien gérer les finances publiques. Je demande à la CAQ de s'occuper de la demande envoyée par l'autorité des marchés publics.
Alors,
aujourd'hui,
vous plaidez une citation hors contexte.
Non, mais c'est sérieusement là. Prenons juste un instant. Pensez vraiment que Charles Millard, qui a parcouru tout le Québec, qui est un fier francophone, pense que le Québec, ce sont les deux langues officielles. Ouais. Ça a été dit dans le contexte. C'était un contexte d'une longue conférence de presse.
D'accord.
Et même à la fin, avec un sourire, en parlant de l'espagnol ou parlant des deux langues officielles, mais c'était vraiment pas son intention de dire que c'est pas la langue, le français, ce n'est pas la langue.
Mais dites-moi donc, à l'intérieur de votre caucus, là, quand on fait la promotion de la langue française, tabarouette, il doit y avoir de vos députés des circonscriptions anglophones, eux autres, qui disent à Charles Milliard, hey, ralentis un peu, là, on va perdre nos votes, nous autres, on va perdre nos places.
OK, bon. En règle générale, les discussions du caucus, ce sont des discussions privées.
Bien sûr.
OK. Mais là, je vais vous parler de moi-même. Comme ça, je ne vais pas impliquer avec moi le caucus.
Faites-moi une confidence.
Tout ce qu'on discute au caucus, c'est privé. On ne le ramène pas sur la place publique. Mais moi, mon chef d'éragie, j'ai choisi le Québec parce que je voulais étudier en français. Je suis étonné d'entendre que les libéraux ne veulent pas protéger la langue française. Je veux qu'on la protège. Je veux qu'on donne les outils aux gens pour qu'ils puissent étudier, pour qu'ils puissent écrire un bon français, pour qu'ils puissent parler un bon français. C'est ça qu'on veut et c'est ça que le Parti libéral prône. Pas uniquement avec les francophones, mais il y a aussi les francophiles. Ça, on veut améliorer le bassin de l'apprentissage de la langue française. Et c'est ce combat qu'on doit mener. Pas de la surenchère qui va protéger plus que l'autre la langue française. S'il vous plaît. Il y a beaucoup d'autres débats. Le débat sur la langue française est extrêmement important. La protection de la langue française est extrêmement importante. Promouvoir la culture québécoise est aussi important. Et vous savez quoi? Je suis un fier libéral et je vais me battre avec mon parti pour continuer ce combat, mais à notre manière, pas la manière caquiste, pas la manière péquiste.
Ben vous avez encore quelques semaines pour nous prouver que le Parti libéral est là pour défendre le français.
Ben là, j'ai l'impression que je viens de perdre tout ce que je viens de vous dire. Avec tout ce que je viens de vous dire, vous n'êtes même pas convaincu.
Ça va prendre des actions concrètes, Monsieur Déragi.
Excusez-moi, moi j'ai choisi le Québec et je vais continuer à me battre avec des actions concrètes. On l'avait, les actions concrètes. Mon collègue Greg Kelly a déposé un projet de loi pour permettre aux jeunes anglophones d'avoir aussi accès à des cours en français.
Monsieur Déragi, c'est tout le temps qu'on a. On reprend ce pas beau débat-là sur la langue une autre fois. Mais chose certaine, on va faire cheminer ce plus de 600 millions de déficits accumulés à la SAC. Soyez-en convaincus. Merci de votre disponibilité. Vous avez toujours un franc-parler intéressant.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Monsef Déragi, député du Parti libéral du Québec, porte-parole en matière de santé et de transport. On a fait un petit peu de temps supplémentaire avec lui, donc on va aller directement à la pause, Pascal, parce que Rémi Villemeux veut nous parler de vitrerie royale.
Joyale,
je me trompe tout le temps. Ouais, avec Martin et Matt, il trippe au bout de sa série.
Je l'ai commencé hier.
Marceau trippe sa série. Là, toi, tu sais que t'es excité. On parle de ça au retour de la pause.
C'est vraiment sur les vies d'entrepreneurs.
Mais c'est ça. Il paraît que c'est full intéressant.
Avec la pluie, c'est le temps de prendre soin de notre auto. Pourquoi? Ben parce que c'est ça qu'on a à faire. Puis je vous envoie chez Le Leader au Québec pour les pièces d'auto et accessoires. C'est la place pour vos pneus, vos pièces d'auto au meilleur prix. Moi, je viens d'aller chercher mes pneus d'été. Encore un super service. Ils savent de quoi ils parlent. Même, ils ont vu mon erreur de ne pas avoir pris la bonne mesure pour mes pneus, mais ça m'appartient. Eux se sont rendus compte de ça avant que je commande. Fait qu'on a évité une perte de temps. Pourquoi je vous parle de pièces d'auto économiques? C'est qu'en ce moment, on a des rabais. 15% de rabais sur les disques de frein de première qualité Brake Max. C'est à forte teneur en carbone, c'est un freinage plus en douceur. Puis il y a 20% aussi sur les plaquettes de frein Bosch. Je vous conseille personnellement le Rain-X sur vos vitres pour l'été, entre autres avec la pluie qu'on a. Là, vous allez voir, ça va perler, ça fait vraiment une belle différence pour la conduite et la sécurité. Mais on a surtout une nouvelle entente. On a maintenant en inventaire les produits d'origine Mopar et B-Pro pour les propriétaires d'auto Chrysler, Jeep Dodge. Pardon. Par exemple, si tu cherches une pièce d'origine du fabricant pour ton Dodge Ram, ben tu t'en vas chez pièces d'auto économiques et tu commandes directement ça chez eux. Prendre en note que Charest est ouvert aussi samedi matin de 8h à midi maintenant. Pièces d'auto économiques, c'est la référence au Québec. 8 magasins, toutes les grandes marques, des pièces neuves, garanties, un site transactionnel.
Vivace ou annuaire, jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
La zone spectacle extérieur Le Chant du Festival Western de Saint-Tite revient en 2026 sur la scène SiriusXM. Dès le 11 septembre, voyez Max McNown, Matt Lang, Cameron Whitcomb et Blake Whitton. Billets au fwst.ca.
On entend souvent l'expression « c'est ton jour de chance ». Mais chez JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, on t'offre deux jours de chance. Parce que les 8 et 9 mai prochains, toute l'équipe a préparé le plus de tracteurs et d'équipements possible. Parce qu'on veut que vous puissiez essayer un vrai tracteur John Deere. Robuste, efficace et polyvalent. Et si vous l'aimez, vous pourriez repartir avec. Pendant deux jours, c'est l'événement à vous le siège du conducteur. Comme on dit maintenant, manque pas tes deux chances. Parce qu'il n'y en aura peut-être pas une troisième. Pour plus de détails, va sur jldlagu.com.
Le caucus. Du lundi au jeudi midi, ne manquez pas les explications simples de dossiers parfois complexes.
Antonin Iacarini vous les sert clair, net et précis dans Le caucus. Du lundi au jeudi midi, dans On en jase.
Boulevard 102.1.
Participez aux 6 heures en cœur, un défi de marche ou de course au profit des enfants malades du cœur et de leur famille. On se donne rendez-vous le 23 mai à la base plénière de Sainte-Foy. Seul, en famille ou en équipe, chaque pas compte. Inscription au en-coeur.org.
Coudon, as-tu pris tes cartes d'une boîte de céréales? Hey, pis toi, Steve, t'es tellement lent. Si tu cherchais quelqu'un pour ralentir le chantier, ils ont pas le bon! Pis toi, ma belle, à la bonne ta banane. Mais là, c'est rien qu'une blague.
Oui, mais là, c'est plus drôle. Sur les chantiers, on entre en zone respect. Vous êtes témoin ou victime de comportements inappropriés? Agissez. Pour des ressources et du soutien, visitez zonerespect.org.
Salut, c'est Jeff Fortin.
Et Max Larouche.
À Boulevard Saint-Louis, on parle d'actualité, de débats politiques et ce qui touche surtout à la ville de Québec. Mais aujourd'hui, le sujet, c'est vous.
Fait qu'on veut savoir comment vous écoutez Boulevard, quelles émissions vous écoutez, quels segments vous accrochent le plus, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimez un peu moins.
Rends-toi sur le blvd.fm et réponds à notre sondage sur tes habitudes d'écoute. Tu pourrais même gagner jusqu'à 250$ chez Chaloux en carte cadeau.
C'est 5 minutes de votre temps qui vont nous aider à améliorer le produit qu'on vous offre, puis on veut vous lire, on veut vous entendre. Fait que let's go, là, au blvd.fm.
Dino vous offre une promotion du tonnerre. Apportez-nous votre emballage actuel de litière de grande surface et on vous donne un sac gratuit de litière Odor Lock de 6 kg. Faites vite, les quantités sont limitées et ça va partir vite. Visitez dino.ca.
Le hockey des séries, c'est vraiment le fun. Mais le hockey des séries chez Québec Brou, ça, c'est vraiment, vraiment le fun. En plus, 17 pour 10 piastres les soirs de match. Québec Brou, pas pire, hein?
Pour une durée limitée, transférez deux lignes à TELUS et obtenez deux lignes supplémentaires offertes grâce au rabais famille TELUS. C'est jusqu'à 60$ par mois d'économie lorsque vous apportez votre propre téléphone. Faites vite, l'offre se termine bientôt. Seulement en boutique TELUS. Des conditions s'appliquent.
L'actualité présentée par PCN Physio. Pour ceux qui bougent beaucoup et pour ceux qui recommencent à y prendre goût, viens voir les pros de PCN Physio. PCNphysio.com.
Boulevard. Québec. 102.1.
En jazz, ton émission d'actualité du midi. On parle d'actualité provinciale comme on vient de le faire avec le dossier santé numérique. On parle aussi d'actualité locale et on en sait un peu plus. Le projet pilote de 1000 unités de logement, 28 millions investis en capitale nationale. C'est pas mal les grandes lignes de l'annonce là, présentement que Christine Fréchette et Lionel Carma sont en train de faire. Mathias Turcotte est au point de presse.
Oui, bon, on repart de la base. Conférence de presse en services sociaux aujourd'hui. Effectivement, la première ministre est à Québec avec Lionel Carma qui est aux services sociaux. Il y a plein de gens, là, entre autres pour l'habitation, Karine Boivin-Royer, Jean-François Simard pour la capitale nationale, Karianne Bourassa pour les sports et le maire de Québec aussi sur place. Alors, on s'attendait assurément à quelque chose d'annoncé, mais surtout deux nouvelles mesures pour lutter contre l'itinérance. On est toujours en direct, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a 28 millions de dollars. C'est une enveloppe qui avait été mise de côté pour la nouvelle première ministre essayer de revamper un peu ce qu'elle avait envie. Et là, choisi l'itinérance. Donc, deux nouvelles mesures. Et parmi celles-ci, tu as un projet pilote de 1000 unités de logement pour aider les personnes qui souffrent de cette situation d'itinérance.
Alors, on va suivre le tout pour vous. Mathias va être dans le retour avec Denis Véro et Audrey pour nous faire justement le résumé complet de cette belle annonce pour la capitale nationale.
André Joyal, président de la Vitrerie Joyal. I'm the boss.
Bonjour, Monsieur Joyal.
Bonjour. J'ai travaillé comme un fou pour bâtir une entreprise que je pourrais léguer à mes fils. Ma compagnie est une belle réussite, j'ai une belle famille. Je suis plutôt malheureux.
Monsieur Joyal, c'est le meilleur vendeur de tout le Grand Laval.
Pendant que je suis ici, on va profiter de passer quand même.
C'est Grand Laval.
Ça n'a pas bien été. Oh, yeah. Tu vas faire quoi pour vendre plus? Je vais essayer de vendre plus.
Je veux devenir humoriste. N'importe quand que tu fais un show, je t'assieds en première rangée.
Rémi Villemur s'est tapé au complet la télésérie Vitrerie Joyale. Rémi Marceau, le matin, il m'a dit « Je t'accroche bien raide. » Pascal CV m'a dit « J'ai commencé, je trippe au bout. » Dis-moi donc, toi, tu te situes où par rapport à cette télésérie sur Prime avec Martin et Matt, Vitrerie Joyale?
Moi, je l'ai terminé. Je l'ai regardé en deux coups. Donc, le premier soir, 3 épisodes, puis le deuxième soir, les 3 derniers. C'est 6 épisodes de 35 minutes. Plusieurs choses à dire. Pour commencer, Prime, là, moi, je suis abonné à Prime depuis des années. Et au début, quand vous étiez abonné à Prime, il n'y avait pas de publicité. Et là, à un moment donné, ils se sont rendus compte que... Oui, ben, c'est pas juste qu'il y en a, c'est qu'en réalité, vous continuez de payer, puis il y en a. Fait que comme utilisateur-payeur, vous vous dites, c'est parce que je pensais qu'on avait un marché, là, vous deux. Là, c'était, je payais, puis j'avais pas de pub. Fait que là, finalement, tu payes, puis tu as accès au contenu, mais avec de la pub. Donc, en fait, tu payes pour avoir accès au contenu et non pas au contenu sans pub. C'est quand même bien joué. Je vais réfléchir à si je reste abonné ou pas, moi. J'aime pas ça me faire crosser. Deuxième affaire, on va parler de la série que j'ai donc terminée. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, là, beaucoup apprécié. La seule affaire, c'est que, et tout est devenu plus clair quand j'ai entendu Martin Matt en parler l'autre jour de cette série-là et surtout des coulisses, du processus qui l'a mené à. Et il disait au début, moi, je travaille avec François Havard depuis des années. François Havard, c'est l'auteur des Bougons, on le sait, c'est quand même quelqu'un qui est capable d'aller loin dans l'humour grivois et dans l'humour noir. On a commencé à écrire des textes. Et on nous a dit à Prime qu'il y avait des blagues qu'on ne pouvait pas faire, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas vraiment mettre à l'écran en 2026. Et quand vous regardez la série, puis Pascal, elle va pouvoir en témoigner parce qu'elle a vu la première partie de la série, je pense qu'on sait de quoi il s'agit. C'est qu'il y a des personnages hommes, blancs, d'un certain âge dans cette série-là, qui sont des hommes d'une autre époque. Et au début, Prime n'en voulait pas de ça. Et ils ont dit à Martin Matt, on n'en veut pas. Et Martin Matt a dû demander une rencontre en Zoom et leur expliquer en anglais que, ben, il y avait une part des choses à faire. C'est-à-dire que si tu fais un personnage en 2026 de 30 ans qui tient des propos comme ceux qu'on entendait peut-être dans les tavernes, je dis peut-être, mais qu'on entendait dans les tavernes dans les années 70-80, ben ouais, il y a peut-être des explications à offrir. Sauf que là, il a dû leur expliquer que c'était une série d'époque. C'est une série qui se passe en 1995. Puis le personnage principal, il a à peu près 50 ans. Donc, c'est un homme qui est né en 45, si la mathématique est bonne. Et ça, ils n'ont pas compris ça du premier coup. Et ça, c'est incroyable, quand même, à vrai dire, que des gens s'essayent à la culture et à l'art et à la télévision et ne soient pas capables du premier coup de comprendre des choses comme ça, qu'ils aient besoin d'explications. Ça, c'est la première affaire. Là, je vous lance là-dessus parce que ça m'a frappé.
Ben, je trouve ça un peu étrange parce que je me dis, si on a une fermeture automatique au départ, c'est-tu parce qu'on n'a pas l'ouverture, parce qu'on a peur des critiques, mais là, ça devrait être décomplexé, puis on devrait pouvoir aller dans ces époques-là justement pour se comparer, puis avoir des débats par la suite. Mais ça nous ramène à c'était quoi la réalité? On devrait être super ouvert à ça. Là. On s'entend, on ramène pas le Ku Klux Klan, puis on commence à dire que c'est une belle affaire, là.
Ben c'est parce que si on voulait ramener le Ku Klux Klan, d'accord, si c'était un choix artistique de faire ça, je pourrais peut-être comprendre que la rencontre soit requise. C'est-à-dire, là, expliquez-nous ça parce
Ben
que
oui,
c'est
là.
vraiment la première fois de notre vie que quelqu'un nous offre un truc semblable. On a besoin d'explications. Mais là, c'est pas ça pantoute. C'est un homme né en 45, qui est en 95, puis qui fait face à la modernité. Allô, Prime, c'est quoi qui est compliqué là-dedans? C'est pas bien ben compliqué, là. Hein, je vous dis, je vais me désabonner.
Mais
Là,
hey, en même temps, Rémi, là, il y a tellement de poursuites dans ce monde à cette heure sur justement des projets artistiques ou des artistes qui veulent louer une salle, puis là, il y a des mouvements de contestation. Tiens, je vais prendre le documentaire Génération 30 de Jean-Pierre Roy. Ça me surprend pas que Prime se mette quadruple
non, mais c'est un
bretelle.
problème, tu penses pas?
Ben, c'est un problème. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un énorme problème. Mais ça me surprend pas qu'une compagnie comme Prime mette les quadruples bretelles parce que oh, c'est qui va encore nous poursuivre ici aujourd'hui?
Ouais, mais là, attendez mes notes là. Parce que connaissez-vous l'expression avoir du fuck you money, hein? Donc ça veut dire que vous êtes tellement riche là, que vous êtes capable de donner de l'argent comme ça vous fait pas un pli, ça vous fait pas une différence. Moi, on m'a toujours expliqué que le jour où je vaudrais 150 millions de dollars
Ouais.
ou 2-3 milliards de dollars, et ça s'en vient,
Oui,
c'est
c'est
en
ça, tu
chemin,
nous le diras, Rémi.
que dans ce temps-là, ben, à ce moment-là, je pourrais faire ce que je veux. Prime, là, ça vaut combien, ce business-là? Pourquoi ils se posent ces questions-là que des gens qui sont en début de carrière se posent, pas dérangés, pas heurtés, pas... À moins que ça soit comme ça qu'il se soit rendu si célèbre et si grand et si gros et si riche, c'est en prenant peu de risques. Ça, je trouve ça un peu ordinaire parce
Mais
que ça renverse.
tu le compares à quoi un géant comme Netflix qui a sorti le documentaire sur PDD puis qui s'est dit, hey, même si lui, avec tout son cash, il nous poursuit, fuck off, on va de l'avant, on va faire plus d'argent ou encore on est prêt à affronter la tempête?
Ben, tu vois, c'est heureusement qu'il y en a qui affrontent la tempête. Je sais pas pourquoi Prime a eu peur. Bon, là, la deuxième affaire que je veux vous dire, c'est parce qu'il y a un lien avec la première, c'est que mettez-vous à la place de Martin Matt. Cette rencontre-là est requise, on vous demande de vous expliquer. Quand vous avez fini par les convaincre, puis que vous pesez sur fin de la discussion, vous avez quand même un peu la chienne. C'est-à-dire que vous n'êtes plus le créateur que vous étiez avant la rencontre. Vous êtes un créateur qui a eu gain de cause, mais qui est quand même au courant que ça posait un problème, puis que vous n'avez peut-être pas convaincu tout le monde finalement dans cette rencontre
Donc là,
résultat.
J'essaie de lire dans ta tête, ça veut dire que la prochaine fois que tu vas créer quelque chose, ben là, c'est plus ce que je viens de dire, Prime qui met quadruple bretelle, c'est l'artiste et c'est là que ça devient dangereux.
Ben, je ne veux pas lui prêter d'intention, je veux pas même imaginer qu'il sera moins virulent, qu'il sera moins courageux. Je veux pas aller là, mais je vais quand même utiliser mon expérience. J'ai regardé la série jusqu'au complet, puis dans les trois premiers épisodes, ça m'a quand même un peu fatigué, le fait qu'il y avait rien qu'un personnage de cette génération-là qui avait une sensibilité puis qui était comme un peu homme de son temps. Je sais que c'est une comédie, OK, d'accord. Mais au Québec, on aime ça, prendre des comédies puis en faire un sujet politique, puis c'est correct, c'est une belle qualité qu'on a. Mais dans la série, il y a juste un personnage qui appartient à sa génération, qui est un peu sensible, qui est un peu à cheval avec son temps et sa modernité. Et ça, moi, j'ai consulté autour de moi. J'ai demandé à des gens qui ont l'âge, qui ont 60 ans, 65 ans aujourd'hui, je leur ai dit, en 95, là, il y en avait-tu du monde qui était un peu nuancé? Il y en avait-tu du monde? Ou tout le monde réfléchissait comme des hommes dans des tavernes des années 60-70? Puis on m'a dit, ben non, on va dire, il y avait toutes sortes de gens. Je trouve pas que c'est vraiment bien représenté dans la série. Mais c'est drôle, ça remplit son objectif. Donc là, j'en appelle ni à la censure, ni à la réécriture. Je vais juste dire que j'imagine quand même que c'est potentiellement une conséquence de cette rencontre-là. Peut-être que Martin Matte et François Havard, quand ils sont retournés à l'écriture, ils se sont dit, bon, écoute, on a gagné, mais ça les dérange quand même. Fait que ce qu'on devrait peut-être faire, c'est insister mm-hmm. sur les traits. Les personnages Cave et Colomb, on va en mettre beaucoup pour qu'on comprenne que c'était une génération, puis c'était des gars, puis ils étaient blancs, puis ils étaient canadiens-français, puis il y en a un qui était correct, mais lui, c'est parce qu'il est gay, puis c'est refoulé. Fait que lui, c'est correct. Lui est sensible. Lui est... Si vous regardez la série, vous allez comprendre.
Rémi Villemur, ça m'amène à penser à ta deuxième question que tu me posais par texto ce matin. Tu disais, est-ce qu'on a trop de sages dans notre société? Est-ce qu'on se fie trop à ces comités de sages? Là, t'sais, on entend ça. Oh, on a un problème avec la transition de genre. On va demander à un comité de sages de se pencher là-dessus. Nos anarchiques, là, ils peuvent pas changer la société, ou donc?
Ah, bon, là, attendez une minute, là. Moi, je parle des enfants, parce que les enfants, on n'arrête pas de leur inventer des règles. Là, on se rappelle la fameuse règle des buttes de neige. Puis là, on disait, si vous descendez une butte de neige, il faut mettre un casque, puis suivez les règles.
Il y a même quelqu'un qui avait développé un programme informatique pour faire en sorte qu'on n'a pas besoin d'utiliser le galon. On prend une photo, on rentre ça dans le système, puis là, on sait si les enfants peuvent glisser. C'est extraordinaire!
Oui, c'est parti, mon kiki. On pense que l'enfant idéal, c'est un enfant sage. Puis là, je veux être bien compris, parce que j'ai aussi dit plusieurs fois en ondes que les règles, c'est important, puis que même, il faut accepter que les enfants... Il faut encourager les enfants, des fois, à respecter des règles niaiseuses, parce que ça leur enseigne que dans la vie, il y a des règles niaiseuses, puis il faut... Tu peux avoir une conversation avec ton enfant à la maison, hein, tu peux lui dire, regarde, la règle est niaiseuse, mais celui-là, pareil, je suis avec toi, mon gars... Puis c'est pas grave, ça se fait ça. Ça peut être nuancé, une éducation. Mais ça prend pas juste des gens qui obéissent dans la vie. T'sais, regardez autour de vous les entrepreneurs, les rêveurs, les artistes, même les premiers ministres en passant. Pas sûr que moi, que Christine Fréchette, c'était la plus sage à l'école. Même si on a l'impression que oui, moi, je pense que quelqu'un qui devient premier ministre dans la vie, c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux. C'est quelqu'un qui réfléchit en dehors de la boîte. C'est des rêveurs, c'est des gens qui font de l'insomnie la nuit. C'est des gens bizarres, les gens qui créent et qui sont au sommet dans la société. Donc, dans un Québec où il y a de moins en moins d'entrepreneuriat, dans un Québec de plus en plus réglementé, dans un Québec où on se watch constamment, moi, je ferais attention à encourager uniquement le fait d'être sage et d'obéir. Ça prend des petits fous puis des petites folles pour faire le Québec de demain.
Ah, j'aime vraiment ce que tu nous amènes parce que je suis entièrement d'accord avec toi. Faut sortir des sentiers battus, puis il faut avoir l'énergie de le faire. Puis si on est trop sage, on n'aura pas d'énergie, puis on n'osera jamais repousser la limite. Puis c'est en repoussant la limite qu'on invente, qu'on entreprend, puis qu'on réussit.
Bien, je trouve que ça va avec la première chose que Rémi nous disait par rapport à la série qui écoute. Là. T'sais, Martin Matte, est-ce qu'il s'est stoppé à un moment donné? Parce que là, on le fait réfléchir sur l'aspect humain derrière ça, est-ce qu'on va froisser, etc. Puis des fois aussi, dans la société, c'est bon, parce que même quelqu'un qui pourrait être super éclaté n'a pas pris le pouls de Hey, je vais-tu faire mal? Vas-tu faire du mal à quelqu'un? Y a-tu un angle mort que j'ai pas, moi, que j'ai pas vu ou que j'ai pas eu de sensibilité? Pas parce que j'étais un écœurant, mais juste parce que je ne l'ai pas vu. Mm-hmm. Ça aussi, ça amène un re-questionnement des fois, puis tu vas moins loin. Y a pas vraiment de balance. C'est difficile de trouver l'équilibre, on dirait.
Oui, c'est très, très, très difficile. C'est pour ça qu'on est, on n'est pas des machines, puis qu'on est doté de nerfs, de poils, de chair, de toutes ces affaires-là qui ne sont pas tout à fait de l'ordre de la rationalité. On est sensible, on peut se tromper, on peut s'améliorer même.
Mais on devrait pardonner, là, on devrait pardonner plus.
Ah, oui.
Moi, je pense que c'est là, tu sais, dans l'équilibre, ça va être dans le pardon du fait. Tu n'es pas un sapristi d'écœurant, tu n'es pas catégorisé comme une marde. On ne te cancelle pas à première erreur. Il y en a que je comprends, mais je pense qu'on est capable d'avoir une discussion adulte en ce moment, puis d'avoir des nuances, mais c'est peut-être le pardon le problème.
Bien, tout à fait, Pascal. Puis, tu sais, il y a deux types de personnes à qui on peut pardonner. Il y a les gens qui n'avaient pas l'intention de commettre quelque chose de mal. Ça, je pense qu'il faut qu'on apprenne plus rapidement à leur pardonner, ces gens-là. On appelle ça faire un accident, ça. On appelle ça être maladroit. Ça, il n'y a pas de raison d'en vouloir à quelqu'un toute une vie parce qu'il n'a pas fait exprès. Et on est même capable, parfois, de pardonner ceux qui avaient des mauvaises intentions. Mais commençons donc avec ceux qui se sont trompés. Puis ça en débarrasse, ça fait déjà un bon débat.
J'adore Rémi Villemur. Bon, ben je vais écouter Vitrerie Joyale ce week-end.
Oui, écoutez, là, attendez, je veux juste être bien compris, c'est bon la série.
Ben, c'est clair, je l'écoute.
Moi, je vais me désabonner parce que moi, j'aime pas ça me faire crosser, mais c'est la vie. Ça, c'est moi, OK? Fait que vous, abonnez-vous, puis regardez-la, puis après, restez abonné ou pas. Puis c'est une bonne comédie, là. On rit, puis ça fait du bien, puis c'est bien écrit.
On t'écoute comme à chaque lundi au jeudi sur les ondes du 99.5 Montréal à compter de 18h et samedi matin de 8h à 10h avec Jacinthe Varel. Salut Rémi Villemur, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Ciao, Rémi qui est avec nous les mardis et jeudis.
Et je fais une chronique avec Rémi une fois par semaine sur son émission à Montréal. Puis hier, j'ai apporté le sujet qu'on est en train de ramener à la punition corporelle chez les enfants. C'est fascinant de voir ça. Je trouve que ça fit avec son sujet d'aujourd'hui. Quand tu dis qu'un pays est en train de réfléchir, bien, Singapour dans ce cas-ci, sur ramener la punition physique, est-ce qu'on retourne trop en arrière? Est-ce qu'on on punit bien nos enfants? Est-ce qu'on fait comprendre? Il y a des débats comme ça, comme celui qui vient de nous livrer, où tu te dis comment tu vas bien élever ton enfant. Tu sais, moi, je pense que tu as deux gars, là. T'en as fait des erreurs.
J'en ai fait des erreurs.
Est-ce qu'ils sont assez créatifs? Est-ce que tu as l'impression que tu les as laissés assez vivre? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de règlements?
Je pense que oui.
Ta balance là-dedans est où? Moi, je pense pas qu'on doit revenir au châtiment.
La balance d'un et pas la balance de l'autre. Puis non, moi, les punitions physiques, là.
Moi, je suis complètement désaccord.
Dans l'air du temps,
ce qu'on dit
aussi,
en psychologie, c'est que l'enfant ne va pas réfléchir. Là, il ne va juste pas avoir peur de se faire frapper.
C'est ça, là.
Puis en plus, ça va lui apprendre à... On a le droit, dans certaines circonstances,
de frapper.
D'aller là.
Non, une société va gagner en violence avec ça.
Mais
c'est clair.
C'est pourquoi on n'est pas capable de discuter puis de mettre les règlements puis d'avoir la nuance de dire « Hey, ça, c'est con, mais pour le bien de la société, on la respecte. »
Je te dirais qu'il y a plusieurs gens qui ne veulent plus débattre. C'est une des... C'est une conséquence, je pense.
Ce serait peut-être le premier point, tu penses?
Oui, je pense que oui. Tu as juste à lire les trolls sur les médias sociaux.
Oui. Je trouve que c'est l'âge de revenir au châtiment corporel.
Ben oui, ben oui, voyons, ça n'a pas de sens.
Ça, c'est une opinion.
Éduquons. Éduquons avant de frapper. Éduquez, ne frappez pas. Circulation, Pascal?
Laurentienne Sud, auteur de la rue de la Fonde, la voie de gauche qui est partiellement entravée, il y a des débris.
Courte pause à Boulevard 101, émission en jase. On revient avec un bon bloc news pour vous. On en jase, émission du midi. On jase même en dehors des ondes.
C'est des sujets qui nous animent.
Exactement. Hey, météo, parlant de choses qui animent les gens puis qui est toujours très important. Quelques averses aujourd'hui, 9 degrés.
Tant qu'à avoir une averse, on peut-tu avoir un orage, quelque chose de le fun, de divertissant?
Un vrai bon, on nous dit qu'il y a un risque d'orage cet après-midi.
Bon, moi,
un vrai bon.
Ben, c'est pas mal gris dehors. C'est
ça. Puis après ça, on sent l'air. Mais pas entre 5h et 6h, parce qu'il doit son cours de conduite, je ne vois pas qu'il soit pogné dans l'orage.
Bien, il apprend, en passant, là, dans les intempéries,
il
t'apprend.
Dans les orages.
Moi, les tempêtes de neige, les plus
violentes.
Ma mère, jamais l'aurait sorti avec moi, là, pendant que j'avais pas mon permis, puis encore. Mais mon père, il m'amenait.
Ouais.
Il n'y avait personne sur ses routes, ou à peu près. Peut-être que je devrais pas le dire. Je sais pas si c'est...
Vas-y.
Non, mais c'est ça, il m'amenait en pleine tempête de neige, pratiquer ma conduite, puis en way la côte, puis ça. Je sais pas si c'est être père indigne, mais ça m'a beaucoup appris. Tu sais,
ben
même Je pense que c'est indigne. Je devrais pas dire. J'ai entendu dire qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui avait une pratique avec son père. Il a mis les breaks à bras, là, pas dans un stationnement, là, sans prévoir et sans prévenir. Mm-hmm. Je l'ai appris en sapristi que tu mets pas les freins.
Ben non.
Quand tu dérapes.
C'est ça. En effet.
Parce que ça va se replacer.
Ah, c'est ça.
Ton Edou, je lui souhaite même. Ben un petit cours de conduite à pleine pluie.
Ah ouais, à pleine pluie, mon Edou. 11 degrés, 60% de possibilité d'orage pour demain. Ça serait des averses tard le matin et en après-midi. Et full soleil, 13 degrés pour samedi. Merci de réagir au 418-971-1021. Vous êtes des champions. Vous le faites énormément depuis le début de l'émission. Puis je salue Simon qui dit « Vive les marginaux! » Pour ceux qui ne savent pas de quoi qu'on parle, BLVD.fm, la chronique de Rémi Villemur va être disponible immédiatement après l'émission. Pascal, c'est une grosse journée de nouvelles. On y va avec un bon bloc, justement, d'actualité pour nos auditeurs auditrices.
On le savait, il y avait un point de presse fort attendu à Québec aujourd'hui avec Christine Fréchette, qui est la première ministre. L'annonce, c'est 28 millions de dollars contre l'itinérance. C'est le genre de portion budgétaire qu'on réservait au prochain chef de la CAQ pour y aller selon un choix politique, ben c'est là où on investit en partie du côté de Christine Fréchette. On le sait que les élections s'en viennent. On sait que c'est l'un des problèmes les plus importants, l'itinérance au Québec. Et là, son gouvernement investit 28 millions de dollars pour combattre l'itinérance dans trois endroits, l'Outaouais, la capitale nationale et Montréal. Alors, elle était flanquée, on dit, de quatre de ses ministres et du maire de Québec dans les dernières minutes pour un point de presse à Lauzière, ici, dans notre ville. Et on dit que ça fait du bien de voir qu'il y a quelques 21 millions de dollars sur trois ans qui vont aller au programme de supplément, au loyer en prévention, là, justement, de cette crise du logement. Donc, on est dans un projet pilote pour 1000 unités de logement. Ça, c'est l'une des annonces qui a été faite. Il y a des vols importants, comme quoi une personne aînée dont le conjoint décède et qui ne peut plus payer son loyer toute seule pourrait, par exemple, garder son logement puis deviendrait subventionné. C'est quand même intéressant. Là. On parle de nos aînés en ce moment qui en arrachent. C'est offert à 12 endroits au Québec depuis 2 ans. On a fait des preuves avec ça pour aider ces personnes-là en situation d'itinérance avec des troubles de santé mentale. Donc, on essaie de faire des petits miracles, qu'on dit. C'est le projet phare. Il faut savoir que l'augmentation de l'itinérance, c'est 20 % en 4 ans qui a été notée. Donc, grosse annonce qui était attendue. Sinon aussi, pénalité de 8 000 $ pour la députée Mme Sona Lacoyanne Olivier.
Hey, j'ai tellement de la misère de ce nom-là, moi.
Des fois, ça va bien, des fois, ça va mal.
C'est l'enfer.
Mais on va retenir qu'il y a une motion de blâme qui est recommandée pour une infraction éthique. On l'accuse d'avoir utilisé son bureau de Chomedey à des fins partisanes pendant la course à la direction libérale en faveur de Pablo Rodriguez. Donc, c'est la conclusion que la commissaire à l'éthique, maître Ariane Mignolet, a fait. Mais Sona Lacoyanne a également entravé le travail de la commissaire. Elle reste donc exclue du caucus. Beaucoup de choses problématiques là, qu'on souligne dans tout ça. Puis c'est sûr, c'est repris un peu partout. On s'entend à l'aube d'une campagne électorale. Redécoupage, un accord qui est conclu à Québec pour faire passer de 125 à 127 le nombre de comtés. C'est un accord entre la CAQ, le Parti libéral du Québec, Québec solidaire, Parti québécois. Et le contenu de cette entente-là se retrouve dans un projet de loi. Ça a été déposé ce matin par le ministre responsable des institutions démocratiques, Jean-François Roberge. Le dossier santé numérique fait énormément jaser. Aujourd'hui, on a une portion d'une heure là-dessus. Autant avec Antonine.
Ouais. Antonine, Yann Langlais-Plante, directeur des affaires publiques pour Santé Québec, et Monsef Déragé, critique en santé pour le Parti libéral du Québec, l'opposition officielle. Tout ça va se retrouver sur le blvd.fm. Caroline, que je ne sais plus quoi penser.
OK, je me demandais si tu étais encore sur ta position, parce que vous avez eu un excellent débat, Yannick et toi, ce matin.
Ben oui.
Yannick qui est très sceptique, très peur, qui ne croit pas. Toi qui se dis, il y a tellement de gens bien placés, positionnés, en qui j'ai confiance, qui disent, ça va aller. C'est un projet pilote, il va y avoir des frasques, mais il va y avoir du bon, puis il faut passer à l'action. C'est samedi, là.
Ben, c'est parce que moi, j'ai embarqué dans le discours de Caroline, on ne peut plus rester à l'époque du fax.
Mais on ne peut plus.
Tabarouette.
Ça, c'est sûr.
Mais là, ma crainte. OK, je suis pour qu'on le lance, mais ma crainte, c'est qu'il y ait trop de dommages pour les gens qui, par exemple, ont le cancer. Mm-hmm. C'est ça, ma crainte.
Des retards dans les chirurgies.
Ouais, comme une crainte que j'avais enlevée depuis 48 heures. Puis là, Nicolas Lachance, qui est un journaliste pour le Journal de Québec, Journal de Montréal, dont j'ai énormément de respect, qui couvre les activités sur la colline parlementaire, il parle avec plein de gens. Puis là, il y a plein de médecins qui disent « Non, 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 20 % moins de chimio, 60 % moins d'endroscopie. » Donc, je me dis « OK, attends, on s'en va où, là? » C'est vraiment perturbant.
Tu sais, même une opération à la hanche, moi, je me questionne là-dessus, qui est retardée pour une personne aînée. Parce qu'on voyait beaucoup en psycho que, en gériatrie, par exemple, une personne aînée qui n'a pas de mobilité, qui n'a plus ses activités sociales et tout ça, tout ce qui est cognitif est en perte totale. Puis des fois, ça va mener à des conditions physiques de santé.
Ben oui.
Fait que tu dis, ah, l'opération hanche, ça peut attendre, mais est-ce qu'on va faire la différence? Écoute, Jeff, on n'a plus le choix. On va de l'avant avec ça. C'est samedi que le projet pilote commence. On s'assure qu'on est prêt, que tout est ouvert. Christine Fréchette a mis quand même son étampe de première ministre
C'est un peu ça aussi dans ma réflexion. Je me disais, crime, Christine Fréchette, qui vient d'arriver en poste, qui doit faire un sans-faute pour essayer de sauver la CAQ, dit « on y va ». Mais c'est tabarouette assez baquée.
On n'a plus le choix de vivre d'espoir en ce moment parce qu'on s'en va de l'avant.
Parce que c'est fait. Ça commence samedi.
Il ne faut pas se planter. Je pense que c'est la dernière fois où on...
Exactement.
Où on peut prouver que là, on n'est plus dans l'air de la SAQ Click. Je vais juste finir avec l'antavirus parce qu'il y a un Québécois qui est sous surveillance en lien avec l'éclosion sur un bateau de croisière. Donc, c'est trois Canadiens, dont un Québécois. Ils se sont retrouvés sur le vol d'un cas confirmé d'antavirus. Ils sont en isolement, sous surveillance, parce qu'il y a une éclosion qui est survenue sur un bateau de croisière là, dans l'Atlantique. Et je te dirais que les ministres fédérales Anita Hanoun et Marjorie Michel sont beaucoup sur le dossier. Ça semble être important au niveau de la santé.
Comme on a l'habitude de le faire à l'émission, on en jase depuis le début des séries éliminatoires de hockey. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer l'émission sport après cette courte pause.
Et leurs collaborateurs te racontent l'actualité.
Boulevard 102.1.
Et dans l'actualité ces temps-ci, il y a du sport, Pascal. Il y a les séries de la Ligue nationale de hockey.
Mais moi, je suis fâchée contre toi puis Alex Laramé là, d'avoir dit... C'est correct, c'est authentique et honnête d'avoir dit que hier, ça allait Buffalo qui allait gagner. Mais là, vous n'aidez pas à cause des Canadiens.
Non, ben, écoute, Claude André nous a écrit « Jeff, comment peux-tu dire avec objectivité qu'il serait peu probable que le CH gagne 4 matchs? La saison était quasi anthologique et la fiche l'un contre l'autre est égale à 2-2. » Claude André, il remet du positif dans la machine. Comme Max Larouche nous a dit à matin. Max nous a dit, hey, je suis pas désespéré, on a joué une grosse troisième période, on bâtit là-dessus, on y va. Alex Laramé a dit pas mal la même chose tantôt. Mais crème, j'ai regardé le match hier, ces deux équipes, on dirait qu'ils sont pas sur la même planète. Les Sabres de Buffalo sont rapides, sont physiques.
Ils sont grands.
Ils sont bons.
Mais la fougue du Canadien, peut-être.
Exactement. L'unité, le Canadien est une équipe très unie. Les joueurs travaillent ensemble un pour l'autre. Le gardien de but, Jacob Dobesch, qui fait très bien depuis le début de la saison et des séries. Donc, tout ça pour en virer. Le prochain match est ce vendredi, 19h. C'est sur les ondes de TVA Sport. En attendant, amateurs de hockey, bien, vous voulez voir un match ce soir? C'est à 20h, parce que c'est un seul match ce soir à l'affiche. C'est les Hurricanes de la Caroline qui visitent les Flyers à Philadelphie. C'est 2-0 Hurricanes dans la série. Toujours intéressant de regarder, Pascal, parce que si jamais le Canadien finit par me surprendre et éliminer les Sabres de Buffalo, bien, ça va être le gagnant de la série Hurricanes-Flyers qui va affronter le Canadien de Montréal. Alors, toujours un match intéressant. Puis, dans les séries de la Ligue nationale, bien, vous rappelez hier que les Ducks d'Anaheim ont créé l'égalité 1-1 dans leur série contre les Golden Knights de Vegas. Le prochain match sera également vendredi pour cette série, c'est-à-dire à 21h30 après le match du Canadien. Pascal CV, c'est déjà terminé. Dans le retour de Gravel, ben Mathias Turcotte va passer pour parler justement de cette annonce, cette très belle annonce en itinérance de la première ministre Christine Fréchette, annonce ici pour la capitale nationale et également la chroniqueuse judiciaire Judith Demel va passer. Toujours très intéressante.
Grosse émission.
Yes! On se dit à demain, nous!
À demain!
À demain, salut!